Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau podcast, cette nouvelle émission de la rédaction de Gameblog.fr, n'est-ce pas? L'émission 512 déjà, t'imagines? À chaque fois je dis ça en fait.
Ouais.
Déjà, mais oui, mais je vais dire ça à chaque fois en fait, c'est absurde.
Pire en pire en plus.
Exactement. Vivement le numéro 1000, hein, ça, je sais pas si on sera encore tous là, mais
en tout cas,
vous êtes tous fidèles au poste, j'imagine, en podcast, sur SoundCloud et compagnie, ou en vidéo maintenant. En vidéo pour tous, hein, on le rappelle.
Et bientôt à Bercy.
Et bientôt à Bercy.
Tu veux dire à l'Accor Hotel Arena?
Accor Hotel Arena.
Non, dans Bercy Village là, on va se balader,
on va aller
bouffer une pizza tranquillement.
Tu sais que j'ai connu le vieux Bercy Village, il y avait des tonneaux de vin et tout qui traînaient par là. Non mais c'est vrai en plus, avant qu'ils démolissent tout. Bon, c'était il y a très longtemps.
Ouais, ça s'appelait Lutèce je crois à l'époque.
Et, ouais, comme ça. Presque, mais franchement ça faisait un peu penser à ça, ouais. Pour être super honnête avec Watt. Et bien voilà, donc le retour des podcasts cette semaine, hein, sur l'actualité. On va parler de pas mal de petites choses fort intéressantes ma foi, avant que Plume ne s'envole. Pour le X19.
Ah non, je prends le train, c'est bon.
C'est pas grave.
Me fais pas stresser à me dire que je vais prendre l'avion.
Il va s'envoler le train?
Bah, j'espère pas. C'est pas mon souhait. Mais oui, c'est vrai, ça va être le XO19.
Et tu flippes ou pas?
Et bah non, en fait, je suis content, il va y avoir plein de trucs, donc on
exactement.
En parlera sûrement dans le podcast de la semaine prochaine.
Tout à fait.
Parce qu'il se pourrait que Microsoft frappe méga fort, ou pas?
Exact.
Ou pas, ou que ce soit un Inside Xbox à base de World Premiere.
Bah c'est ce qu'ils annoncent hein, maintenant. On verra.
Bidon, mais ça se trouve non. Ça se trouve,
c'est génial. En tout cas, exactement, tu nous feras ton débrief de malade mental sur place et nous, on couvrira le truc en live si on n'est pas dead sur le site. Donc, mes chers amis, avec nous, il y a Camille.
Hello.
Il y a Plume.
Wesh.
Et il y a Thomas.
Correct.
Et Poufy à la technique qui est en train de se balancer sur sa chaise. J'espère qu'une chose, c'est qu'il se pète la gueule d'ici la fin. Qu'on rigole un bon coup.
Non, il va appuyer sur L2 et R2, il va se stabiliser, je
c'est
le sens tout de suite. Ouais.
Death Stranding 2, like. Eh bien, mes amis, qu'est-ce qu'on a sur ce podcast cette semaine? C'est pas compliqué, le win, le fail, comme d'hab, avec des choses qui vont déplaire à plein de gens, mais c'est pas grave, on vous en parle dans pas très longtemps. Il y a 10 ans sur Gameblock, la fameuse rubrique que le monde entier nous envie. Le thème number one, on parlera Planet Zoo avec Camille qui a kiffé sa race. Du changement avant l'arrivée de la PS5 chez Sony Interactive Entertainment, il chamboule un petit peu tout et on vous dit tout ce qui va se passer, tout ce qui se passe, pourquoi, comment. Et enfin les tests de la semaine où on reviendra sur trois jeux qui nous ont marqués ou pas, dans le bon sens du terme ou pas, ça vous le verrez. Et évidemment il y aura aussi la rubrique anniversaire et où on parlera d'un jeu que les gens adorent, et vous verrez ça tout à l'heure. Et puis un hors-jeu à la fin de l'émission. Mais on va tout de suite commencer avec le win de la semaine que Plume va...
C'est le win de ces six dernières années.
C'est le
GTA 5. Voilà, GTA 5, puisque Rockstar, enfin Take-Two Entertainment, la maison mère de Rockstar, a encore, comme tous les éditeurs, hein, fait son petit bilan financier du dernier trimestre écoulé.
Exact.
Et outre des bonnes ventes pour Borderlands 3 ou autres, on a remarqué encore une fois que GTA 5 continuait de performer. Et c'est le mot est faible quand on parle de performance pour GTA 5, parce que c'est littéralement des records à l'appel qui tombent avec ce jeu. Imaginez que sur ces 6 derniers mois, donc nous sommes en 2019, du 1er avril au 30 septembre, oui. 2019, il s'est vendu 5 millions d'exemplaires de GTA V, un jeu qui est sorti à l'origine en 2013, 17 septembre 2013.
Ça fait juste 6 ans.
Sur Xbox 360 et PS3 avant d'arriver un an plus tard sur PS4, Xbox One et PC. Et il continue à se vendre comme des petits pains. Et là, maintenant, on en est à 115 millions d'exemplaires écoulés dans le monde. C'est tout simplement indécent.
C'est un phénomène. Hein,
merci voilà. PC d'ailleurs, parce qu'il fait des énormes ventes.
Ah bah il a toujours été dans les meilleures ventes de Steam depuis son arrivée sur PC. Sur PlayStation Store, on n'arrête pas de le dire, mais tous les mois ils mettent en avant leur vente, leur charts de vente dématérialisée. Il est toujours dedans, il a été cet été après la mise à jour Hotel dont j'ai oublié le nom évidemment parce que c'est toujours comme ça. Il était à nouveau numéro 1 des ventes pendant un mois, deuxième le mois suivant. Enfin bref, on n'arrête pas GTA 5
carton,
ouais. Et on comprend pourquoi Rockstar espace les ventes de ses jeux à ce point-là et qu'ils se permettent de dire Red Dead Redemption 2, on va le sortir peut-être 5 ans après ou je sais pas, ou qu'ils se permettent d'annuler des Bully 2 dont on va peut-être reparler d'ailleurs après.
Chut.
Et voilà, c'est juste n'importe quoi, voilà.
Exactement. Bah oui, c'est
Tu sais que j'ai,
inarrêtable.
J'ai réussi à ne jamais y jouer quand même, malgré 115 millions d'exemplaires
même
vendus.
Même pas 20 minutes.
Non, même pas 20 minutes.
D'accord.
Bravo.
Bah t'as le temps.
Donc ils vont continuer à en vendre.
Avant le prochain qui sortira dans 3 ans. Parfait pour ce win, merci Plume. On va parler du fail maintenant avec Camille.
Exactement.
Et là, c'est. Ça on sait pas si c'est vraiment un fail parce que.
Ouais,
enfin, si, quand même un petit peu, mais.
C'est pas vraiment un fail dans le sens où on s'y attendait.
On s'y attendait exactement.
Ouais. En fait, ça concerne le catalogue de lancement de Google Stadia, donc la plateforme de cloud gaming de Google. Et donc, on a appris le line-up. Le line-up concerne donc 12 jeux. Donc, pour l'instant, là, les 12 jeux, j'ai la liste devant les yeux. Il s'agit d'Assassin's Creed Odyssey, de Destiny 2, de Guild qui est en fait l'exclu Google Stadia, donc un jeu vraiment développé pour le Stadia, Just Dance 2020, Keen, Mortal Kombat 11, Red Dead Redemption 2, Thumper, Tomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider et Samurai Showdown.
Of the Tomb Raider.
Exactement.
Ouais. Laissez Samurai Showdown tranquille s'il vous plaît.
C'est vrai.
Et donc bah du coup c'est vrai que ce sont des jeux qui sont mis à part Guild qui sont sortis il y a quand même un petit bout de temps, Red Dead Redemption 2 qui est sorti sur PC il y a pas si longtemps que ça, donc voilà, ça peut se comprendre. Mais c'est vrai que bah ça fait un peu tiepi dans ce sens où on aurait pu s'attendre déjà à un catalogue un peu plus large et peut-être des jeux qui sont un peu moins datés quoi. Parce que c'est vrai que pour l'instant, même du Destiny 2, ok, ça a plus d'un an maintenant.
Il n'y a pas de grosse originalité.
Il
n'y
a pas de grosse originalité.
À part Guilt, donc.
Ouais, exactement. Donc on aurait pu penser à des choses un peu plus sympas. Surtout qu'il faudra attendre le mois de décembre minimum pour avoir accès à d'autres jeux, dont des jeux un peu plus récents cette fois-ci, Borderlands 3, Metro Exodus, bah, qui est récent, mais qui est, voilà, c'est pas non plus.
Qui est sorti en début d'année.
Qui est sorti
mais qui
est
un très bon jeu quand même.
Wolfenstein, Youngblood, etc. Donc voilà, des jeux qui sont très sympathiques, mais on aurait pu s'attendre à des choses plus récentes. Il faut quand même savoir qu'en 2020, le catalogue va évidemment s'agrandir. On aura du Cyberpunk 2077 et du Doom Eternal, qui sera d'ailleurs une bonne occasion de Doom Eternal de bien tester le côté du ping, etc. Enfin, l'influence du ping, en tout cas, sur le jeu.
Bah déjà sur MK11, hein, mine de rien.
Ouais, déjà sur MK11.
Bah c'est pour ça qu'on distingue vraiment le line-up de la partie technique de,
exactement, ouais.
De la machine. C'est difficile à dire ça, mais
oui,
les infrastructures de Stadia derrière,
ouais,
on va voir si ça suit ou pas quoi. Voilà,
c'est ça, exactement. En plus en sachant que l'année prochaine il y a le fameux Stadia Pro, le fameux Stadia classique qui avait la version gratuite en fait, qui permet d'accéder donc au service gratuitement, mais il faudra quand même acheter les jeux indépendamment et séparément. Et là actuellement donc le 19 novembre il y a les Founder qui vont recevoir leur version Founder Edition avec une manette de luxe, avec un coloris qui est illimité. Donc maintenant, malheureusement, si vous l'avez pas acheté, c'est trop tard pour vous. Vous aurez droit à d'autres manettes peut-être plus tard. Mais pour l'instant, le coloris qui s'appelle Blue Sky, hein, quelque chose comme ça, sera uniquement disponible pour les Founder. Voilà.
D'accord. De toute façon, on en reparlera très très bientôt.
Ouais.
On peut pas dire quand exactement, mais vous le saurez. Vous le saurez tantôt. Et on reviendra évidemment sur tout ça.
On essaiera de revenir sur
le service et voir ce que ça donne.
Sur le catalogue en lui-même et surtout le service, est-ce que ça tient la route sur un téléphone, en Wi-Fi, etc. Quoi.
Tout à fait. Voilà, donc on vous en dira plus très 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 bientôt et pour l'instant on ne sait pas si on se lancerait dans l'aventure Stadia. Tant qu'on n'a pas vraiment testé. En réel entre guillemets quoi.
C'est
parce
ça,
on a déjà eu l'occasion de le faire, mais
en
pour
réel,
l'instant
dans les meilleures conditions, puisque nous à la rédac on a quand même une connexion fibre qui est assez exceptionnelle et même des gens qui ont la fibre n'ont pas forcément une connexion fibre si performante, donc faut vraiment
faudrait la faire tester par un lecteur qui habite au fin fond de la Creuse ou un truc comme ça.
Là je pense que c'est mort, hein. C'est,
non mais t'auras une bonne idée justement.
Non, mais déjà, je vais dire
s'il a pas la fibre c'est mort de toute façon.
Oui, c'est déjà, je testerai quand même par curiosité chez moi avec la DSL pour voir ce que ça va donner, mais j'ai quand même de sérieux doutes quoi.
Tout à fait, ça marche, merci Camille. Tout de suite la rubrique il y a 10 ans sur Gameblog. Et oui, il y a 10 ans déjà, que s'est-il passé, mon cher Thomas, sur Gameblog?
Eh bien, écoute,
est-ce que tu te rappelles?
Non, moi, tu sais, j'ai la mémoire très courte.
C'est vrai,
j'ai pas la mémoire des noms, donc j'ai besoin de mes notes pour me rappeler de ce qui s'est passé. Et il y a 10 ans, on parlait effectivement déjà de Rockstar. C'est ce cher Julo qui demandait, ou qui apparemment pensait savoir que Bully 2 était en développement du côté de chez Rockstar, donc la suite de celui qu'on appelle Canis Canem Edit chez nous. Et en fait, le compositeur aurait comme ça vendu la mèche dans un moment d'égarement en précisant que on dirait bien que je vais faire la bande son de Bully 2 dans un avenir pas si lointain. Et du coup, on se disait que c'est parti, la suite était en chantier et que tout allait bien dans le meilleur des mondes, sauf que on n'en a pas entendu parler pendant très longtemps. Mais le mois dernier, ce cher Romain, le 7 octobre très précisément, nous révélait que Bully 2 était effectivement bel et bien en développement à cette époque, en 2009, je vais y arriver. Ce qui fait que le compositeur avait dû effectivement être mis au parfum par Rockstar. Mm-hmm. Le développement avait démarré justement il y a 10 ans, il s'était mis en pause, le temps qu'un certain Red Dead Redemption soit mis en chantier, sorte, etc. Le développement avait ensuite repris pendant entre 12 et 18 mois, on ne sait pas forcément très exactement combien de temps Rockstar a planché dessus. Mmh. Il aurait dû utiliser le moteur d'un certain GTA V et de Red Dead Redemption 2, et finalement, Bully 2, en tout cas pour l'instant, n'est jamais sorti. Donc peut-être que d'ici une dizaine d'années, on aura le droit à une suite, ou peut-être à un troisième épisode directement. En tout cas, au rythme actuel où Rockstar sort ses jeux, il va falloir forcément patienter encore très très longtemps pour espérer revoir notre cher héros
Jimmy Hopkins,
merci, et sa tête à claque de rouquin.
Pourquoi tu dis ça? T'es dégueulasse.
Exactement.
T'es un raciste anti-rouquin.
Et en parlant de racisme, ou presque, ouais. Il y a 10 ans, comme chaque année, comme chaque fin d'année, on se bouffait un Call of Duty. Là, en l'occurrence, c'était Modern Warfare 2. Sachant que Modern Warfare tout court, c'est celui de cette QV 2019. Hein, comme quoi tout arrive.
Le reboot de l'impossible.
Et Raon nous apprenait que cet épisode était pour un temps banni en Russie, puisqu'il y avait cette fameuse mission dont on a reparlé il n'y a pas très longtemps. La mission de l'aéroport, avec, on va dire, un déroulement qui a marqué les joueurs à l'époque. Et dans le rôle du grand méchant, on avait évidemment les Russes. C'était plutôt les méchants pendant la guerre froide, mais là, en l'occurrence, même en 2009, c'était encore les vilains russes qui se faisaient trouer de balles par les très gentils américains, et du coup, le gouvernement russe n'avait particulièrement pas apprécié justement de figurer dans ce rôle de grand méchant loup. Et du coup, toutes les versions du jeu avaient été rappelées des étals, et Infinity Ward avait dû se fendre d'une mise à jour pour la version PC et avait complètement supprimé le niveau incriminé, ce qui fait que comme ça, on avait pu ce passage polémique dans lequel les Russes étaient vraiment très méchants.
C'est surtout qu'en fait, on était dans l'aéroport de Moscou et pour spoiler, on incarnait un agent infiltré du FBI qui se retrouvait avec des terroristes justement, et on avait la possibilité,
on avait le choix ou pas,
de canarder des civils. Malheureusement, ils n'avaient pas pensé à l'incident, à une espèce d'effet d'incidence, genre tiens, si je le fais pas, mais peut-être que les autres terroristes ils vont se douter d'un truc ou autre.
Ouais,
tu pouvais le faire vraiment comme tu voulais ou pas. C'était une option qui était offerte et c'était pas. C'était pas dirigé
ou quoi que ce soit. Exactement.
Ça avait une bonne explication. Et à la fin de cette mission, d'ailleurs, le personnage que t'incarnais mourait, quoi qu'il arrive. Mais ouais, c'est vrai qu'après, à l'époque, ça a énormément choqué, déjà parce que c'était très violent de nous laisser cette possibilité.
C'est trop gratos, quoi. Je veux dire, quel est l'intérêt de faire ça?
Non, c'est pas gratos. C'est pour illustrer un événement qui va déclencher d'autres événements la suite. Et pour moi, c'était bien expliqué à l'époque.
Oui, et puis nous faire opter pour le point de vue de quelqu'un qui se retrouve.
Exactement.
Ça va nous arriver tous les 4 matins, mais dans cette situation où, pour ne pas griller ta couverture, est-ce que tu serais prêt justement à aller jusque là?
Exactement.
Ça,
exactement.
Ça posait aussi des questions intéressantes.
Et tu pouvais ne pas le faire, et effectivement, ça avait été retiré dans les magasins russes, et c'était devenu totalement optionnel par la suite grâce à une mise à jour.
Tout à fait. Et la troisième news, Thomas, du coup.
Et oui, il n'y a pas que les terroristes qu'on traquait en Russie, il y a aussi
les pédophiles.
Les pédophiles, très chers à notre petite Ève, qui étaient traqués il y a une dizaine d'années grâce, tenez-vous bien, à la PS3. Il se trouve que des PS3 avaient été montés en réseau et surpassés par leur puissance de calcul des ordinateurs à plus de $1000 pièce. Et ce dispositif permettait justement de décrypter des mots de passe qui n'étaient pas forcément permis par la loi américaine à l'époque. Et du coup, la console de Sony avait servi justement à la traque de terroristes, ce qui était assez inattendu, on va dire.
Pédophile, je veux dire.
Oui, pédophile. Ouais. Les terroristes, c'était juste avant, autant pour moi. Donc voilà, c'était quelque chose d'assez étonnant, et ça m'a rappelé, moi, du coup, cette affaire dont vous vous souvenez sans doute.
La PS2 et les missiles nucléaires.
La PS2 et les missiles irakiens.
Irakiens.
comme quoi l'Irak aurait importé des PS2 afin de pouvoir contrôler des missiles en passant par-dessus les restrictions qui lui étaient imposées.
Donc ils voulaient mettre en série pour avoir une puissance de calcul énorme.
Voilà, ce qui était évidemment le cas de la PS3, puisque dans l'article, on nous précisait que pour le coup, on pouvait passer en revue pas moins de 4 millions de mots de passe en une seule seconde grâce justement à ces PS3 montées en réseau avec leur puissance de calcul incroyable.
Exact. Ben, merci beaucoup Thomas pour ces fameux 10 ans sur Gameblog.
C'est à Plume qu'il faut dire merci cette semaine puisque c'est lui qui a fait la sélection.
Et bien s'en fout. Plume, merci. Et puis Thomas, merci. Et puis Poufy, merci aussi. Puis merci la vie.
Et Camille, il peut aller crever du
coup. Camille, non, il va pas crever justement. Tu sais pourquoi ? Parce que voici le thème number one. Et là, on va parler de quoi ? D'un jeu cher à nos amis les animaux, même s'ils sont enfermés.
Ouais, alors justement.
Dans Planète Zoo. Ouais, non, mais justement, tu vas nous expliquer qu'en fait, non, mais oui, mais non, mais.
Bah, ils sont captifs au départ.
On va parler de Planète Zoo, donc.
Oui, mais attention, c'est très très intéressant comme système de.
Ouais, alors on n'est plus dans
l'enfermement.
À l'époque des tycoons où c'était la rentabilité avant tout, où on pouvait enfermer ces animaux dans des cages de 10 mètres carrés. Là, on est donc Planète Zoo, on a un côté éthique évidemment en 2019. En fait, le mot zoo. Il est utilisé parce que c'est quand même un mot qui est voilà qui fait pas qui parle quoi.
Oui, que tout le monde comprend.
Exactement. Mais si tu fouilles dans le détail, en fait, tu te rends compte que c'est bien plus qu'un zoo et en fait, ça serait plus des réserves en fait. Enfin, le but à terme, c'est créer des réserves pour protéger les animaux. Donc le studio Frontière qui est derrière a vraiment voulu mettre un côté éthique pour être totalement transparent là-dessus et être irréprochable. Mmh.
Puis c'est dans l'air du temps. On aurait pu leur reprocher de pas avoir accès là-dessus alors que justement aujourd'hui
la maltraitance animale, la pétasse sur le dos,
aujourd'hui on peut plus se permettre de,
mais surtout qu'en plus c'est pas uniquement que sur les animaux, c'est aussi sur la protection de l'environnement de manière générale,
son ensemble,
puisque le jeu est très ludique et très pédagogique sur tous ces aspects, donc voilà, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc Planète Zoo, il fait partie de la licence Planète, qui a auparavant les Planète Coaster, qui nous permettait de gérer un parc d'attractions qui était complet, mais finalement pas tant que ça. Alors que là, on arrive sur un jeu qui est vraiment extrêmement complet. En fait, dans Planète Coaster, si on n'aimait pas la construction, c'était un peu fini pour nous. Le jeu n'avait pas grand intérêt dans le sens où on pouvait tester ces attractions, mais il fallait les construire avant tout. Donc, si tu n'avais pas un esprit créatif de base, c'était très difficile. Alors que là, en fait, tu peux évidemment créer ton zoo et personnaliser le machin vraiment à 100%. Mais ce qui fait le charme du jeu, c'est évidemment les animaux, les gérer. Les voir agir, puisque évidemment une attention toute particulière a été portée sur les animations, comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran, c'est somptueux. Frontière a travaillé avec des spécialistes du comportement animalier pour rendre tout ceci crédible, et la crédibilité va jusque dans l'IA en fait, puisque on regarde pas que des animaux très beaux et très bien animés, en fait on regarde aussi des animaux qui ont une véritable intelligence et qui ont un comportement unique en fait, par spécimen, par espèce et par individu. Donc évidemment je sais pas, par exemple si vous avez plusieurs singes dans votre réserve, je sais pas, vous avez 10 singes de la même espèce, les 10 singes vont avoir un comportement différent. Vous allez avoir des singes qui sont plutôt joueurs, des singes qui sont plutôt craintifs, des singes qui sont curieux, qui vont plus s'approcher des visiteurs, etc. D'autres qui vont être assez gourmands, qui vont tout de suite se jeter quand le soigneur rentre dans la cage pour donner la bouffe, tout ça. Il y en a qui vont être un peu plus loin et d'autres qui vont venir très rapidement. Enfin, il y a vraiment tout un aspect comme ça qui a été très recherché, et c'est vraiment une joie à regarder. Si vous aimez les animaux, c'est vraiment un jeu qui pousse les choses à son paroxysme dans les détails.
On peut choisir les animaux qu'on veut ou ils sont tous...
Alors en
fait, on aura tous presque le même zoo avec les mêmes animaux.
Alors en fait, le jeu propose différents modes. Alors t'as un mode, les modes scénarios. Donc en fait, t'as un peu plus de 12 scénarios qui permettent en fait d'apprendre. C'est une sorte d'immense tutoriel où tu vas apprendre comment fonctionne le jeu, le système des visiteurs, le système des animaux, le système de construction, le système financier, etc., etc. T'as un système bac à sable. Donc là, t'es entièrement libre. T'as aucune finance en fait à gérer.
D'accord.
C'est vraiment open bar, tu fais ce que tu veux. Et t'as un mode de jeu, donc franchise, qui lui en fait fait fonctionner le mode financier et t'oblige à faire des recherches et pour avoir des nouveaux animaux, à faire des échanges avec des parcs qui sont gérés par les joueurs. Donc en fait, bah tu vas voilà, t'ouvres un panneau où c'est une sorte de marché aux animaux, mmh. où tu sais qu'il y a tel parc à tel endroit avec tel de tel joueur qui a réussi à faire s'accoupler telle et telle espèce, et tu vas pouvoir prendre un de leurs petits pour ensuite.
En fait, c'est une question, c'est un truc de service d'échange en fait.
Ouais, alors
t'as là il y a pas d'argent, il y a pas de t'achètes ce machin et tout ça.
Voilà, t'as ce mode d'échange et donc franchise
comme font les joueurs actuellement.
Ouais,
en
exactement.
Fait,
hein. Et si tu ne veux pas jouer en ligne ou s'il n'y a pas de connexion internet, tu peux jouer dans ce même mode de jeu mais sans ça en fait, sans le côté multijoueur où tu fais des échanges. Tu fais des échanges mais avec l'IA en fait. Donc en fait c'est sympa aussi, mais sauf que tu n'as pas le côté créatif des autres joueurs où tu peux leur parler, enfin aller visiter leurs zoos, etc.
En fait ils ont vraiment pensé à tous les joueurs quoi, celui qui veut jouer tout seul,
ouais, exactement, ouais.
Sans contrainte, ouais. Machin trop technique. Si
exactement.
Tu veux jouer en ligne avec les autres, etc., ça c'est bien ça.
Ça c'est très bien.
Ça laisse le choix de
ouais,
faire un peu
exactement.
Ce que tu veux. Quoi.
Ça laisse le choix et c'est vraiment plutôt pas mal. Alors ces deux modes de jeu, c'est évidemment une fois que vous avez la première chose à faire, c'est lancer les scénarios pour comprendre comment fonctionne le jeu. Et après, évidemment, le mode vraiment le plus important,
le
c'est
plus
le mode
poussé,
fameuse hein. franchise ou ce mode hors ligne. Puisque vous gérez les finances et l'économie de votre parc, vous gérez les recherches, puisque en fait évidemment au début tout n'est pas débloqué, vous avez les animaux, on va dire, j'allais dire classiques, mais après vous pouvez développer des nouvelles robes pour vos animaux, vous avez des nouvelles fourrures,
ah oui, carrément,
des espèces d'accord. différentes. Il y a plein de choses comme ça qui rentrent en jeu, aussi les recherches médicales, puisqu'en fait nos animaux peuvent tomber malades, peuvent avoir des virus, et donc au début on n'a pas forcément les bons outils pour les soigner, et il va falloir que nos vétérinaires puissent se pencher sur le sujet. Et vous avez plein de maladies qui sont réalistes, hein. Vous avez la grippe aviaire, vous avez vraiment toutes les maladies qu'on a entendues ces dernières années, ou des grippes propres à certaines espèces, etc., qu'il va falloir soigner, et c'est vraiment, vraiment très intéressant à faire. En quoi le jeu est éthique ? Alors le jeu est éthique pourquoi ? Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, le but n'est pas uniquement financier. On a vraiment tout un aspect protection des animaux qui se montre de plusieurs façons. Déjà, quand vous cliquez sur un animal, vous avez un immense panneau qui va vous apprendre plus sur l'espèce en question. Alors là, à l'écran, c'est un crocodile marin. Vous avez une carte du monde qui vous dit d'où provient l'animal. Alors là, en l'occurrence, ça vient d'Australie. Il vous dit
si c'est une espèce en danger ou
exactement,
pas.
Exactement, si c'est une espèce en danger ou pas. Combien d'individus restent dans le monde? Donc ça c'est plutôt sympa. Par exemple, certains animaux comme les tigres, évidemment vous allez voir qu'il reste très peu d'animaux finalement en liberté, qui sont, parce que même malgré que l'espèce soit protégée, elle est aussi en voie de disparition. Vous voyez ça, vous voyez le comportement de l'animal qui est indiqué, vous avez une espèce de biographie de l'espèce, quand est-ce qu'elle a été découverte, etc., les spécificités, est-ce que c'est un animal plutôt craintif, est-ce que c'est un animal qui est plutôt agréable avec l'homme, est-ce que c'est un animal qui est dangereux pour l'homme, etc., etc. Et surtout évidemment cette fameuse barre qui va du vert jusqu'au rouge pour savoir si l'animal est en voie de disparition ou pas. Et le but évidemment à terme, ça va être d'avoir un mâle et une femelle de cette espèce pour la faire prospérer et ensuite la relâcher dans la nature. Alors vous avez plusieurs choses. Évidemment le parc ne vous laisse pas la possibilité de lâcher dans la nature des animaux qui sont trop jeunes, puisque vous les mettrez en danger. Évidemment si vous mettez un bébé lionceau en pleine savane africaine, ça risque d'être problématique pour lui, non, puisqu'il va devoir vivre avec sa mère un temps.
Il aura un peu de mal.
Oui, mais il va être dans la chaîne alimentaire quelque part.
Ou un animal trop vieux, si vous avez un animal malade ou trop vieux, évidemment il vaut mieux pour lui, pour ses amis, qu'il reste dans le parc et qu'il soit soigné, etc., et qu'il soit bien protégé. Pareil pour plein d'espèces, hein. Mais le but à terme, c'est quand un animal est viable, qu'il est fertile, qu'il est en bonne santé, ça va être tout de suite de le libérer. Quand vous le libérez, vous gagnez des points. Et ces points vont vous permettre d'avoir accès à d'autres espèces. Donc en fait ce sont des points, je ne me rappelle plus le nom exact qu'ils donnent dans le jeu, mais ça permet de débloquer d'autres espèces, donc dans le mode franchise, puisque dans le mode classique, vous pouvez les acheter tout simplement avec des dollars. Et donc c'est vraiment très sympa à ce niveau-là. Évidemment, le bien-être passe avant tout des animaux, puisque un enclos, comme vous allez voir, ne sont pas minuscules comme à l'époque des autres tycoons. Il va falloir créer des grands enclos. On a par exemple le scénario qui se passe en Afrique, qui est vraiment génial, où on a des enclos gigantesques pour les éléphants, pour les girafes, pour les gnous, etc., etc. Et ça c'est super. vraiment, quand on clique sur un animal, on a un système de caméra qui permet de centrer la caméra sur lui et on se prend au jeu à, même si on sait que l'animal est virtuel, à regarder pendant une dizaine de minutes ce qu'il va faire, puisque c'est tellement crédible, tellement réaliste. On sait que c'est virtuel, mais on est attendri par ce qu'on voit, parce que c'est très bien travaillé. On sait qu'on prend soin de l'animal, on sait qu'il est en sécurité. Enfin, vraiment, il y a un côté très éthique là-dessus, et c'est hyper émouvant, quoi. Et on envoie nos soigneurs pour leur donner de la bouffe, pour les soigner, etc., nos vétérinaires. Et c'est vraiment hyper sympa et hyper émouvant.
Et il n'y a pas de psychologie de l'animal, justement, qui pourrait déprimer.
Si,
y a aussi, d'accord.
En fait, nos animaux, si par exemple, alors c'est particulièrement flagrant sur les éléphants, parce que c'est un animal qui est très sociable. Donc si t'as un éléphant qui est tout seul dans un enclos.
Non, j'ai une anecdote à ce sujet. Je suis allé au zoo de Rome il y a quelques années et il y avait un éléphant qui était dans son enclos, qui était pas très grand. Il voulait rentrer à l'intérieur du bâtiment dans lequel il est supposé dormir et il donnait des coups de tête dans la porte, il hurlait, il donnait des coups de tête et on est resté un petit moment avec mon épouse à regarder ce spectacle qui était vraiment qui était affreux, quoi. Et il y a pas un putain de soigneur qui est venu faire quoi que ce soit. Et j'avoue que à ce moment-là, je crois que c'est le jour où je me suis dit les zoos, je crois que je peux plus.
Oui. Il y a un moment où ça fait ça. Ouais.
Ah ouais. Et c'est un truc.
De toute façon, il y a zoo et zoo. Hein.
Oui. Ouais, bah celui de Rome, je vous le dis tout de suite.
Je pense que j'irai jamais du coup.
C'est zoo. Tu m'en parles. Voilà. C'est pas zoo, c'est zoo.
Si tu veux voir des animaux à Rome, tu vas dans les vieilles ruines, il y a des chats partout, ils sont super contents.
C'est trop bien les chats.
C'est vrai que maintenant, il y a des zoos plus éthiques où vraiment ils ont des grands espaces et il y a vraiment ce côté préservation qui est important. Et je pense que c'est pour ça des espèces.
Bah, celui de Vincennes, par exemple, va beaucoup mieux qu'il y a 30 ans.
Celui de Vincennes, je l'ai fait 2 fois. Déjà, c'est super grand.
Non, mais en Normandie, il y en a qui est très grand et très bien
loti. Celui de Thoiry est très bien, mais le mieux de tout, c'est celui de
Beauval.
De Beauval, ouais.
Beauval, ouais. Ah, Beauval est super bien, à part pour les Muriens. Les
suricates.
Ils sont dans un enclos, mais ils ont
pas beaucoup de place.
Et ils regardent les humains passer en étant derrière la vitre comme ça, comme s'ils étaient ultra tristes. Et je pense qu'ils sont ultra tristes. Et c'est le seul truc qui va pas là-bas, je crois.
Ouais,
parce que
le panda, ils sont tellement vulnérables que peut-être qu'ils. Je sais pas.
Après, on va pas lancer un débat là-dessus, mais je trouve.
Oui, non, mais.
Non, mais si, on y va.
Non, mais justement. C'est parti. Pour conclure là-dessus, vous êtes pour le zoo ou contre le zoo?
Pour certaines espèces, c'est, je pense, nécessaire de les préserver de cette façon.
Non, mais bien sûr, de toute façon, on n'a pas le choix, ils sont tous massacrés en permanence.
La faute à qui?
Ouais, c'est ça, ou le braconnage, donc bon.
Bah, la faute à Thomas, à tous les roues de la Terre.
Enfin, bref, il y a une gestion de la psychologie des animaux.
Bah, par exemple, l'éléphant,
l'autruche,
cet exemple, s'il est tout seul dans son enclos, s'il est enclos trop petit, évidemment, il va être triste, il va déprimer, il va arrêter de se nourrir, etc., il va arrêter de vivre, tout simplement.
Il va déprimer, quoi.
Pareil au niveau de la sociabilité, puisqu'un animal tout seul, alors ça dépend des animaux. Par exemple, un loup tout seul, c'est une catastrophe. Ils vivent en meute, etc. Ils ont besoin d'un contact. Des animaux comme les crocodiles, c'est un peu moins gênant puisque ils sont habitués à être en solitaire. Et en fait, le jeu t'indique les groupes, la meilleure façon de créer un groupe. En fait, par exemple, pour un paon, ils te disent que un groupe, le meilleur groupe possible, c'est avoir un paon mâle et 4 paons femelles. Donc ça, c'est dans l'optimal, la situation optimale. Mais c'est vrai que c'est indiqué pour tous les animaux. Donc c'est hyper intéressant pour les loups. Il faut qu'ils soient minimum 4 pour qu'ils soient heureux, etc., etc. T'as aussi le système d'alpha qui est hyper intéressant pour certaines créatures comme les loups, puisque il va y avoir un chef de meute et les autres vont suivre un peu ce qu'ils font. Il va y avoir des combats entre plusieurs mâles pour savoir qui est le femelle alpha ou qui est le mâle alpha. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Et comme je disais, il y a des animaux qui peuvent vivre, alors ils sont très peu nombreux dans le jeu, mais qui peuvent vivre seuls, et encore c'est vraiment un bien grand mot seul, puisque en général en dessous de 2 individus, c'est vrai que c'est assez problématique, mais ça peut fonctionner sur certaines espèces, voilà.
Sauf à la saison des amours, évidemment.
Ouais.
Après, c'est vrai qu'il y a ce côté social qui est hyper intéressant. Il y a des animaux, par exemple, ils ont pas assez de verdure dans leur enclos, ils vont se mettre à déprimer, puisqu'il y a des animaux qui adorent se cacher. C'est le cas du crocodile, par exemple. Si lui, il peut vivre tout seul, il faut absolument qu'il ait de quoi se camoufler, comme dans la nature. Il faut qu'il ait un point d'eau qui soit assez grand pour pouvoir se dorer la pilule à côté de l'eau, qu'il puisse se refroidir dans la flotte. T'as un système de ventilation qui permet aussi de refroidir certaines parties de l'enclos, des systèmes de chauffage quand c'est l'hiver, des systèmes de, au contraire, de sortes de climatisation. Enfin, c'est pas des climatisations, mais c'est genre de brumisateurs qui permet de, bah, de que les animaux soient heureux. Enfin, il y a vraiment plein de trucs comme ça qui sont hyper intéressants. T'as aussi la propreté de l'eau qui rentre en jeu, puisqu'un animal qui vit trop longtemps dans un endroit où t'as une espèce de, même si c'est un lac gigantesque artificiel,
mais de l'eau stagnante,
si c'est souillé, elle va être sale et les animaux vont tomber malades, vont être malheureux. Donc il va falloir installer des unités de traitement d'eau, etc. Ça peut tomber en panne, donc il y a vraiment tout ça qui est pris en compte.
Et au niveau des visiteurs, est-ce qu'il y a des trucs, parce qu'on voit dans la bande-annonce par exemple
qu'il y a des
manifestants par exemple, moi je pense surtout à la gestion d'une possibilité des visiteurs relous, justement, comme ceux à qui tu dis ah non, tu ne faut pas frapper sur la vitre, hein, pour faire chier, le lion,
t'as toujours un ou deux
qui vont de l'autre côté de la barrière exprès pour aller voir un singe,
et à qui les parents disent jamais rien, quoi. Les mecs, ils permettent tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que ça peut m'insupporter, ça?
T'as des enfants,
le mec il frappe comme des sourds sur les vitres
et pas qu'aux os.
Il y a bien marqué ne pas taper machin, ça dérange les animaux. Ah, mais moi quand je vois ça, j'ai envie de les massacrer, quoi.
Tu m'étonnes. Bah, alors du coup, oui, alors les visiteurs sont très bien gérés. Alors t'as plusieurs.
Ils sont bien gérés, moi je les emmènerais directement dans un trou. Regardez, suivez la flèche.
Je faisais ça dans Theme Park.
T'as plusieurs incivilités, t'as notamment les visiteurs qui balancent des papiers, etc. Quand t'as pas de poubelle, par exemple, si t'aimais pas assez de poubelle dans le parc, bah ils vont pas se gêner pour balancer les trucs.
Bah là, tu coupes la main direct.
pour balancer les trucs dans le zoo un peu n'importe où. Alors ça, j'ai pas vu de visiteurs qui essayent de rentrer dans les enclos, puisqu'en fait t'as pas vraiment de système d'attaque des animaux. Genre si t'as un tigre qui se libère, contrairement à Jurassic World qu'ils ont fait précédemment, t'as pas le côté animal qui va attaquer les humains. Donc ça, c'est voilà.
Oui, puis tous les humains décampent, j'imagine, par ce moment.
De toute façon, ils se mettent tous à courir. Par contre, effectivement, t'as le côté un peu chiant, genre qui font un peu de bruit devant les enclos. Donc ça, tu peux le gérer, puisque tu peux recruter des gardiens, en fait, enfin des gardiens de zoo qui vont veiller à la sécurité du parc, des animaux et des visiteurs, qui vont faire des rondes, etc., dans des chemins prédéfinis que tu as créés, ou alors peu importe selon leur disponibilité.
Il faut gérer aussi la nourriture des gens, la bouffe.
T'as ce qui est pris en compte,
les toilettes, etc.
J'en parlais la dernière fois quand on jouait, t'as notamment un restaurant qui s'appelle Monsieur Fritz.
Monsieur Fritz.
Mais voilà.
Les private jokes.
T'as vraiment tout plein de restaurants qui sont disponibles.
Si tu fais un truc à l'excès, genre tu mets plein de restaurants.
Ouais.
Pas de toilettes, pas de machin, ça se passe comment? Tu peux faire ça ou ils te suggèrent, quoi qu'il arrive, que tu dois le faire?
Du coup, les visiteurs se barrent, en fait.
Ah oui, d'accord, ils partent, c'est ça la conséquence.
Et comme ça, les animaux sont tranquilles.
Exactement.
Là, c'est ça.
Ouais, mais après, le zoo, il dépérit, quoi, si t'as pas l'entrée de l'argent.
Bah, il dépérit, mais surtout qu'en plus, t'as deux manières de financer le zoo. T'as l'entrée du parc en elle-même, qui est finalement pas la plus importante, puisqu'en fait,
t'as les pots de vin, comme à Levallois.
Non, la solution la plus importante, ce sont les dons. Donc voilà, les fameux dons.
Les dons mignons.
Exactement, qui marchent aussi bien pour Balkany que pour les animaux.
Exact.
Puisque tu peux, en fait, devant chaque enclos, mettre en fait une corbeille à dons qui permet de récupérer de l'argent, qui permet ensuite de réinjecter dans le bien-être des animaux. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ça marche plutôt bien parce que les gens, globalement, donnent beaucoup. Et ça, c'est très sympa.
Mais est-ce qu'ils font des dons aux espèces les plus mignonnes?
Non,
tu rigoles, mais il y a eu une étude il n'y a pas longtemps qui montre que justement l'être humain était plus prompt à sauvegarder les espèces mignonnes que les autres.
Tu fais bien de souligner ça parce qu'effectivement, tu as des animaux qui sont mieux notés que les autres. Alors évidemment, quand tu vas voir un paon, ça attire moins l'œil que si tu vas voir un tigre ou un guépard.
Alors que c'est magnifique.
Un éléphant, oui, bien sûr. Mais je veux dire, dans l'esprit des gens, le gosse, il va être plus juste attiré par les tigres ou les loups, je sais pas quoi, que par le paon. Donc effectivement, tu as un système d'étoiles jusqu'à 5 étoiles qui permet de. Évidemment, certains animaux vont être. Vont avoir. Pas forcément à recevoir plus de dons, mais avoir une présence autour plus importante. D'où l'intérêt d'avoir un système aussi de chemin qui est, enfin, une fluidité en fait dans le parc.
Sinon, penser au tracé.
Sinon, c'est impossible.
Sinon, ça devient la cohue. Mm-hmm. Bah, les crocodiles, pareil. Les crocodiles, ils attirent beaucoup les gens et on sait qu'il y aura les enclos aux crocodiles, ça va beaucoup marcher et t'as tout intérêt à mettre des corbeilles à dons parce que les gens vont beaucoup donner. Pareil au niveau de la pédagogie, puisqu'en fait, tu peux. Devant chaque enclos, mettre plusieurs choses, alors des panneaux informatifs tout bêtes sur des écrans ou qui te disent voici telle espèce. T'as aussi des systèmes de haut-parleurs qui permettent d'expliquer. Alors pareil, si les haut-parleurs sont trop nombreux, les animaux vont être ennuyés.
Effrayés. Ouais.
Donc faut pas mettre le haut-parleur trop près de l'enclos. Il faut le mettre à une certaine distance pour que l'animal soit pas embêté.
Un endroit judicieux, quoi.
Ouais, exactement. Parce que là, on voit l'écran, justement, les fameux systèmes.
Les écrans 4K.
Les fameux écrans qui permettent d'avoir des informations sur les animaux. Et t'as aussi les, alors ça je suis très content qu'il y ait ça, les fameux panneaux pédagogiques qui permettent d'en apprendre plus sur toute une...
Non mais mec, tu crois que les gens lisent?
De quoi?
À chaque fois que tu vas dans un zoo, il y a personne qui lit ces trucs là
Ouais, mais c'est sympa que ça soit, que ça ait été pensé, tu vois. En tout cas, dans mes zoos à moi, les gens s'arrêtent devant.
Ouais. Parce que, voilà, il a bien éduqué ses visiteurs.
C'est le côté éthique du truc. Donc, t'as plusieurs choses qui rentrent en jeu dedans. T'as le braconnage.
Park ou pas, voilà.
Le braconnage qui est mentionné. La disparition des abeilles, la pollution, la surpopulation. Enfin, il me semble 10 thèmes principaux sur la préservation des animaux qui rentrent en jeu. La déforestation aussi. Et pareil, vaut mieux les mettre par espèce. Par exemple, pour un éléphant. Ou pour des animaux très exotiques qui viennent par exemple de la forêt amazonienne, t'as tout intérêt à mettre un panneau pédagogique sur la déforestation, puisque ça rentre directement en jeu. Alors que si c'est des animaux plus européens, la préservation des abeilles par exemple, ça peut être un bon truc pour que les intéresser les visiteurs. Enfin, y a vraiment plein de choses qui rentrent comme ça en jeu. Outre les visiteurs, t'as aussi évidemment la gestion de son personnel, puisque le personnel peut être vraiment avoir beaucoup trop de travail, surbooké. Ils peuvent même déprimer en fait s'ils ont pas assez de zones pour se reposer, puisqu'évidemment ce sont des humains, donc ils ont besoin de se reposer. Donc faut créer des zones dans le parc, des zones de repos, etc., pour qu'ils puissent se détendre un peu. Ils ont aussi beaucoup d'animaux à gérer, surtout quand le parc devient très grand. Selon la taille des enclos, ça peut être vraiment un casse-tête à les faire travailler.
Ça peut être très 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 grand au final ou quoi?
Ça peut être très grand.
Ou il y a une limite?
Non, il y a une limite, mais ça peut être vraiment gigantesque. Ah ouais. Tu peux vraiment faire un parc qui fait la taille de Beauval, quoi, en termes de superficie.
Donc tu dois embaucher des gens.
Tu dois embaucher des gens. À la fin, tu peux facilement avoir 50-60 personnes du personnel qui travaillent, des soigneurs, des vétérinaires, des gardiens de zoo, des gens qui se chargent de la propreté du parc, de l'entretien.
Et l'action se pose quand t'as besoin de gérer tout ça, parce que t'as les animaux, les visiteurs, le staff, ça fait énormément de paramètres à prendre en compte.
Ouais, c'est toujours ça qui me fait peur à chaque fois, parce que
tu peux mettre le jeu en pause en fait autant que tu veux.
Ok.
Et c'est justement, c'est très
fortement conseillé. Ça reste accessible et lisible du coup.
C'est très fortement conseillé de le faire, puisque en fait, quand tu engages par exemple un soigneur, tu peux lui affilier des tâches et des zones du parc. Donc par exemple un soigneur qui va spécifier plus dans le soignage des loups, je sais pas, par exemple
le soin
des animaux européens, d'autres plus vers les tigres. Alors par exemple quand c'est un enclos comme les éléphants, comme les enclos sont gigantesques ou des girafes, en général un soigneur qui s'occupe de ça, il va s'occuper que d'eux. Il va pas s'occuper des crocodiles et des éléphants en même temps, tu vois, ça a aucun sens. Il va être très vite surbooké, donc ce serait dramatique sur la gestion du parc. Pareil sur les crocodiles, vu que c'est un milieu un peu marin, enfin avec une grande superficie, il vaut mieux que tu dédies du personnel. Pareil, là on le voit, j'y pense avant d'oublier les vivariums. Pareil, les vivariums, il faut absolument qu'il y ait un soigneur qui soit affilié à cette tâche, parce qu'en fait les vivariums peuvent se salir, puisque les visiteurs touchent les vitrines, les verres, etc. Les verres deviennent crades, et donc il faut qu'il y ait un soigneur derrière ou un agent d'entretien qui puisse nettoyer les zones et les façades. Et ça c'est pareil, hein, le bien-être des animaux des vivariums, on pourrait se penser c'est des insectes et des reptiles, faut pas les gérer comme les autres animaux. En fait, il faut les gérer comme les autres animaux, puisque
c'est d'autant plus fragile en plus.
Tu peux gérer, et il faut gérer d'ailleurs, le taux d'humidité.
Bah oui, c'est ça ce que j'allais dire. Ouais. Un ou deux degrés de moins, ça peut être catastrophique.
Ça peut être fatal pour un animal, ouais. Ou alors, ça peut être fatal aussi pour son comportement, etc. Enfin, sur plein de choses, quoi. Donc, tu dois gérer le taux d'humidité et le taux de température, en fait. Et donc, selon la zone géographique d'où vient l'animal, il va falloir gérer ça. Donc, par exemple, je sais pas, une araignée,
si
un scorpion.
Une zone tropicale.
Exactement, t'as des scorpions qui viennent du Sahara, évidemment, il faut qu'ils aient un milieu très sec, limite aride, et un milieu, une température assez élevé entre 29 et 35 degrés.
Ça veut dire pas mélanger les espèces entre elles,
exactement.
Du coup,
tu peux pas mélanger les espèces entre elles, puisque chacune des espèces a son propre taux d'humidité nécessaire et son propre température nécessaire. Et ça, c'est vraiment plutôt bien foutu. Pareil, que tu cliques dessus, t'as l'endroit, la zone endémique, où est-ce qu'ils vivent. Ça te permet de savoir la température la meilleure température qu'il faut. Enfin, c'est vraiment, c'est fouillis. T'as vraiment, enfin, c'est t'as trop de choses limite.
C'est pas la meilleure leçon de zoologie que, qu'on puisse avoir si. Parce que j'ai l'impression que en y ayant joué,
t'es
hyper calé d'un coup sur énormément de sujets sur la vie animale finalement.
T'es hyper calé et en plus rien n'est forcé. C'est-à-dire que tu peux, alors évidemment pour le bien-être des animaux, t'es obligé de quand même de savoir plus ou moins 2-3 trucs, mais t'as plein de choses qui sont optionnelles. Par exemple, moi j'ai pris plaisir à cliquer, je passe sur la fenêtre d'un guépard et savoir le nombre d'espèces qui restaient, de quel endroit d'Afrique ils proviennent, comment leur niveau social, comment ils vivent, etc. Ah ben ça justement, il y a plein de choses encore à parler, mais
les comportements, c'est trop.
Ouais, le comportement, c'est hallucinant en termes de densité et de d'intelligence à laquelle le jeu a été fait.
Tout à l'heure, c'est marrant, pendant la vidéo qui tournait, je voyais une maman, je sais plus quel animal, qui courait vers son bébé comme ça, qui était resté dans un coin de
l'enclos.
Mais
t'as ça, par exemple, quand tu regardes, je me suis prêt à regarder l'enclos des singes parce que vraiment,
C'est toujours facile à regarder,
c'est
en
pas
vrai,
le plus intéressant, mais c'est vrai que c'est un côté très facile à regarder. Et par exemple, t'avais un bébé orang-outan qui tirait le bras de sa mère pour l'emmener jouer, tu vois. Enfin, tu sais, c'est des trucs, des détails, t'aurais jamais vu ça auparavant, tu vois.
L'IA est vraiment balèze. Hein.
Et là, j'en profite pour en parler avant d'oublier aussi. T'as le système donc
des toilettes,
de végétation dans les enclos, puisqu'en fait, il faut absolument que la végétation corresponde à l'endroit d'où provient l'animal. Donc par exemple, t'as tout un système de filtres. De filtres par continent, donc t'as vraiment tous les continents qui sont présentés, et un filtre par milieu t'as la toundra,
la steppe, etc.,
la savane, etc., les steppes. Donc il faut gérer parce que t'as des animaux qui vivent par exemple qui viennent d'Asie mais qui viennent d'un milieu tempéré, alors que d'autres animaux qui viennent d'Asie qui vont être d'un milieu de la jungle, etc. Donc c'est hyper fouillé aussi, et si les animaux n'ont pas la végétation qui correspond dans leur enclos, ils peuvent être malheureux, ils peuvent être tristes, ils peuvent être déprimés et rester dans leur coin. Par exemple, je reprends l'exemple des crocodiles parce que là on les voit pas mal. Un crocodile, s'il a par exemple un crocodile qui vient d'Afrique, s'il a pas des roseaux par exemple au bord de la flotte pour se cacher, pour être tranquille et à l'abri des visiteurs, il va être malheureux, il va déprimer. Pareil sur des animaux minuscules, on parlait des lémuriens tout à l'heure, les lémuriens, pareil, si les lémuriens ils ont pas de choses pour se cacher, s'ils ont pas des endroits rocheux pour se planquer, etc., ils vont pas être heureux.
Mais ça, il te dit le jeu, il t'aide un peu ou pas? Ouais,
en fait, là, tu vois.
Quand tu cliques par zone, tu sais ce que tu dois mettre dedans?
Ouais,
déjà,
tu
de
vois,
base.
Tu vois, quand tu cliques sur un animal, en fait, t'as une dizaine de jauges qui te permettent de dire ce qui va pas et ce qui va bien.
D'accord.
Soit tu crées directement sur l'enclos et ils t'indiquent tous les animaux qui sont dans l'enclos et ils te disent lequel ne va pas bien et lequel va bien. S'il y en a un qui est malade, c'est facile pour le reconnaître. Et si tu cliques sur un animal en particulier, tu sais si cette espèce a besoin, parce que les besoins ne sont pas que au niveau de la nourriture, de la végétation et pour boire, c'est aussi au niveau ludique. Il y a certains animaux qui ont besoin d'un côté ludique. Alors un crocodile, on n'a pas besoin, mais par exemple un singe, un lémurien ou je ne sais quoi.
Il faut qu'il soit stimulé en permanence.
Il faut qu'il soit stimulé, donc il faut construire des zones pour grimper. Donc c'est nécessaire. Par exemple les lémuriens, etc., il faut qu'ils aient un endroit pour grimper. Il faut qu'il y ait des zones de jeu. Par exemple, tu peux mettre pour des éléphants des ballons pour qu'ils puissent jouer avec leurs petits. Les petits sont très, les bébés éléphants, les éléphantaux sont très joueurs. Pareil, même les lionceaux, etc. Donc il faut qu'ils aient un endroit pour jouer. Il faut qu'ils aient un endroit pour se détendre aussi. Par exemple tout ce qui est lion, guépard, les félins. Il faut qu'ils aient
des coins d'ombre et tout ça.
Il faut qu'ils aient des coins d'ombre pour se reposer. Il faut qu'ils aient des coins pour se faire les griffes aussi. Donc tu peux installer des grattoirs en fait,
des
qui canapés, permettent aux animaux de gratter leurs ongles. Et donc ça va aussi bien de la petite panthère des neiges qui fait la taille d'un chat que du tigre adulte, quoi. Du tigre du Bengale qui fait 200 kilos. Et donc ça c'est très très intéressant à voir aussi. T'as donc tout le côté ludique qui est présent. T'as aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Les zones de grimpage.
Ton micro.
Ouais, les zones pour grimper aussi, elles servent aussi pour se nourrir, puisqu'en fait, certains animaux, tu peux mettre une zone de bouffe en haut d'un arbre, par exemple, pour que ça stimule l'animal et qu'il puisse aller chercher sa nourriture comme l'endroit naturel où laquelle il vit. Donc, par exemple, un éléphant, effectivement, il peut se nourrir au sol dans une espèce de bassine en métal, mais c'est mieux d'avoir des arbres pour qu'il puisse récupérer la nourriture en haut. Ou comme les girafes aussi.
Ils le font souvent, ça ils cachent des trucs.
Exactement.
Oui, toujours dans cette optique de les relâcher après dans leur milieu naturel.
Exactement, parce que si t'habitues une girafe à se nourrir dans une auge, Bah, elle aura, elle, quand tu la libéreras, elle aura moins l'habitude. Enfin, bah, tu vois,
ça va être un peu partir.
Exactement, ça, elle risque de perdre ses moyens et ça risque d'être problématique. Donc, vraiment, tout a été pensé. Bah, là, on voit bien les zones pour grimper. Tu peux, alors, soit tu prends, tu n'as pas envie de t'emmerder et tu prends des zones pré-créées. Il y en a pas mal, hein, des endroits pré-créés, des bâtiments, etc. Soit tu veux créer de toute part, de zéro, et dans ce cas-là tu crées vraiment tous les objets aussi bien internes aux enclos que les objets et les bâtiments pour les visiteurs. Donc c'est vraiment extrêmement complet
et, enfin, et c'est surtout ouais. C'est hyper beau aussi.
C'est hyper beau aussi.
Mais tous les animaux sont hyper bien foutus.
Et t'as un autre truc aussi qui est pris en compte, au-delà de la végétation, t'as aussi le sol. Puisqu'il y a des animaux qui vivent plus dans le sable. Par exemple, je sais pas, les lémuriens, ils ont besoin de milieux rocheux. Donc il va falloir avoir beaucoup de roches partout dans leur enclos. Alors que les phacochères, par exemple, ils ont besoin de boue pour pouvoir se rouler dedans, etc. et avoir des endroits boueux. Je sais pas quel animal je pourrais vous prendre, par exemple les lions, ils ont besoin aussi de hautes herbes et d'herbes courtes, sèches, d'herbes asséchées. Alors que d'autres animaux ont besoin d'herbes vertes pour pouvoir, les zèbres par exemple, ils ont besoin des deux, ils ont besoin de beaucoup d'hautes herbes pour bouffer, et ils ont besoin aussi de zones un peu plus de pâturage pour pouvoir se détendre, se reposer à l'ombre, etc., etc. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont prises en compte. Ce serait difficile d'être exhaustif là dans ce podcast, mais c'est gigantesque. C'est clairement le meilleur jeu de gestion de zoo à l'heure actuelle, et même le meilleur jeu de gestion tout court, puisqu'en fait là, ils ont vraiment pensé à tout, aussi bien côté visiteur que côté animaux. Donc c'est vraiment génial.
Et du coup tout le monde peut y jouer, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus.
Ouais, tu peux, en fait.
Il y a des niveaux de difficulté différents, entre guillemets, quoi.
Il n'y a pas de niveau de difficulté.
Non, mais je veux dire, c'est fait en sorte que.
Mais c'est fait en sorte que le tutoriel est extrêmement complet, donc t'es pas vraiment perdu, quoi. On t'apprend plein de trucs là, par exemple pour il y a une myriade de
pour les enclos, etc.
Deux enclos différents.
Et c'est facile à manipuler.
C'est facile à manipuler. À manier, ouais. Si tu veux un parc un peu plus quali, bah tu mets plus des enclos en pierre, en belle pierre taillée. Alors que si t'as un enclos où t'as pas beaucoup de budget, enfin un zoo où t'as pas beaucoup de budget, ça sera plus sur du bois. Et tout dépend aussi de ce que tu veux faire en termes d'environnement, quoi. Si tu veux faire un site en parc se situe en Afrique, bah tu peux aussi coordonner tes constructions avec le climat et avoir des constructions plus africaines, etc., etc., quoi. Donc vraiment c'est extraordinaire, bon, je vous conseille à tous de pouvoir de vous lancer dans l'aventure, puisque ça vraiment mérite. Et le studio Frontières a fait vraiment un travail formidable.
Et il a eu, rappelons qu'il a eu 8 sur 10 indispensables,
puisqu'il y a eu quand même quelques problèmes, notamment de collisions qui parfois sont problématiques, et parfois aussi des problèmes dans certains scénarios où t'es un peu lâché, malgré que ça soit complet en termes de tutoriel. Et toute la complexité, enfin toute la densité du tutoriel, t'as certains moments où il te lâche en fait et tu sais plus vraiment quoi faire. Alors tu trouves quoi faire parce que c'est logique, mais ça aurait été sympa d'avoir des petits tips plus supplémentaires pour en apprendre un peu plus, quoi.
Ok, ça marche. Voilà. Parfait.
Mais c'est évidemment disponible uniquement sur PC pour l'instant.
Et là t'es dégoûté.
Étant donné que les précédents jeux Frontières sont sortis plus tard sur console, je pense, sans me trop mouiller, que le jeu sortira sur PS4 et Xbox One.
Ouais, mais ça va faire pitié. Non, mais c'est sur Switch qu'on le veut.
Ça va faire pitié.
C'est évident.
C'est un jeu PC, ça. Faut rater la connerie.
Ah bah, vu l'interface, oui.
Faut rater les conneries au bout d'un moment.
On dit pas de conneries.
Dis pas de conneries, Thierry. Bon bah voilà, parfait. Hein. Planet Zoo, donc PC uniquement, et sur console, ça fera pitié. Voilà.
Regarde là, tout ce que je peux vous dire. On parlait du tigre.
Non, mais on a fini, ça y est, c'est terminé.
Ouais, il a son arbre à chat. Ouais.
Oui, le tigre, il est super beau, il gratte, et voilà.
Ouais, la mienne fait ça sur mon
canapé. Non, mais franchement, si vous aimez le jeu de gestion et les animaux, bah foncez, voilà, c'est tout, quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? C'est magnifique, c'est superbe. C'est facile à jouer, c'est facile à chanter. Et c'est Planet Zoo, donc 8 sur 10 indispensable sur Gameblog. Le test est vous pouvez le lire, il est sans problème. Et écoute, merci Camille, hein, pour ce topo complet sur ce jeu. Et nous, on va passer au thème numéro 2 maintenant, n'est-ce pas, les amis?
Absolument.
On va parler un peu de ce qui se passe chez Sony Interactive Entertainment. Qu'est-ce qui se passe chez eux? C'est un peu le souk en ce moment là.
Non, enfin, c'est pas le souk.
Il y a une restructuration qui a commencé il y a quelques mois déjà, mais qui continue là.
Bah, cette fameuse mainmise
exactement,
de Sony,
t'as
US,
tout à fait raison,
dont on parlait depuis quelques semaines, qui voulait absolument tout revoir,
tout régenter, tu veux dire,
différemment, notamment sous la coupe de Jim Ryan, qui est le nouveau patron de
la coupe de feu
de Sony en ce qui concerne la partie vidéoludique. Ça continue de bouger, et c'est vrai que cette semaine on a eu des sacrées surprises concernant le Sony Worldwide Studios, où il y a eu une nomination. La nomination d'Herman Hulst, qui est le cofondateur et patron de Guerrilla Games, donc exact. Le néerlandais.
Qu'on voit à l'écran.
Qu'on voit à l'écran, absolument.
Qu'on voit dans Death Stranding.
Qu'on voit aussi dans Death Stranding, forcément, parce que déjà, ça doit être un pote d'Hideo Kojima, et qu'en plus, le moteur Decima appartient à Guerrilla Games, et qu'il y a au moins 70 employés de Guerrilla Games qui ont participé au développement de Death Stranding, parce que Kojima, on dit qu'il fait tout seul, mais en fait,
non, il fait rien.
En fait, avec toutes les pubs qu'il a placées dans le jeu et les gens à qui il a demandé de taffer, il y a largement de quoi faire des équipes à part. Bref, Herman Hulst donc qui se retrouve à cette position maintenant, qui va laisser d'autres personnes de chez Guerrilla gérer le studio. C'est une annonce surprise, mais pas aussi surprenante que celle de, pas dire la déchéance, mais
le reclassement.
Voilà, on va dire le reclassement
tout de suite
de Shuhei Yoshida, qui était donc le patron de Sony Worldwide Studio et qui maintenant va travailler au plus près des indépendants, parce que Joe Corsi,
au cœur des
qui
indés.
Était lui plus proche des indés et des éditeurs tiers, est parti il y a pas très longtemps. Et maintenant on file ça à Shuhei Yoshida, qui est éminemment sympathique et qui a un contact visiblement très facile avec les développeurs. Et donc voilà, ça fait partie des deux petites restructurations qui ont eu lieu cette semaine et qui, dans l'interview que Jim Ryan a donné à Games Industry notamment, participe à cette préparation de la PS5. Il y a des mots qui reviennent assez souvent avec lui,
tu flippes, hein.
Notamment en ce qui concerne la cadence avec laquelle il aime beaucoup le répéter, le mot cadence, avec laquelle les jeux vont devoir sortir. On a l'impression qu'ils vont essayer de s'inspirer un peu de Nintendo et de la Switch, qui a quand même abattu au moins tous les 3 mois des trucs assez exceptionnels depuis sa sortie en il y a 2 ans maintenant. Et on a l'impression que la PS5, Jim Ryan veut exactement la même chose, et que il y a des trucs qu'on ne sait pas encore sur la console. On a entendu parler de la machine ces derniers mois, mais en termes de développement, on ne sait pas encore quels jeux en interne,
il y a beaucoup de mystères,
vont être là au lancement. Et visiblement, ils sont en train de préparer quelque chose d'assez énorme.
Et puis il faut dire qu'en face, on sait que Microsoft a racheté beaucoup de studios aussi, et donc va pouvoir dégainer comme ça des jeux first party. On imagine assez régulièrement, donc Sony sait d'avance qu'il va y avoir une concurrence assez féroce sur la prochaine génération.
Oui, et puis il faut dire qu'avec le XO19 qui arrive, il y aura sûrement des choses qui vont être montrées pour le lancement aussi de la Scarlett. Ça va être le début de la guerre un petit peu. Et il y a pas mal de projets dont on n'entend plus parler, ou qu'on a l'impression qu'ils veulent pas les annoncer. Une suite de God of War, par exemple, ou d'ailleurs on a vu sur internet, sur Twitter exactement, Cory Barlog à un moment qui a commencé à tweeter des trucs avec des photos de la station Hubble, enfin du télescope Hubble, et d'autres choses venant de l'espace. Bon, en fait il est parti en vacances, mais c'est devenu un événement, et on commence à voir que ça s'agit vraiment de ce côté-là. Et on imagine que des jeux comme Ghost of Tsushima, un God of War, peut-être un Spider-Man 2, des suites qu'on imagine vraiment arriver prochainement, sont déjà en chantier sur PS5 et pourraient bien être là pour le lancement. Horizon aussi, Horizon 2, ce serait quand même fou que Guerrilla se penche pas dessus après le succès commercial et critique du jeu. Ça prépare quelque chose du côté de chez Sony. Jim Ryan a l'air d'être à la baguette et de vouloir que ça bourrine, pour parler un peu vulgairement, pour que ça envoie vraiment du lourd très vite. Et toutes ces petites choses là qu'on voit, et encore j'en oublie, il y a aussi Square Enix, et là peut-être que Thomas pourra mieux en parler que moi, qui a commencé aussi à parler de trucs sur PS5 en particulier. Et là, je sais plus de quoi ça parle, un jeu d'action.
Comme pas mal de studios, en fait, c'est à travers la rubrique recrutement de leur site officiel qu'on peut voir sur quel projet ils travaillent. Et là, en l'occurrence, c'est effectivement un jeu d'action, entre guillemets, nouvelle génération. Donc ça parle, a priori, le terme parle de lui-même. Et ils recrutaient justement du personnel pour ça. Et ce qui est intéressant, justement, dans cette annonce, c'est que ça concerne la First Development Team. Donc, vraiment le vaisseau amiral de Square Enix, le label qui regroupe les équipes qui s'occupent des épisodes canoniques des Final Fantasy, des Dragon Quest, donc on va dire la crème de la crème du JRPG chez eux. Et là pour le coup ils travaillent sur un jeu d'action. Alors Dans les commentaires, certains ont déjà commencé à parler de l'épisode 2 d'FF7 Remake. Pour l'instant, on ne sait pas de quoi il s'agit. En tout cas, c'est clair que Square Enix travaille sur un jeu d'envergure pour la prochaine génération de consoles. Alors, en l'occurrence, nouvelle génération, ça peut très bien être la Scarlett comme la PS5, et les, on imagine les deux bien évidemment, mais il y a pas mal de choses qui vont, qui vont se faire de ce côté-là.
The Bouncer 2, le jeu de... Ça y est, le jeu préféré d'Angèle, ça y est, j'ai oublié ça.
The Quiet Man ?
Ah bah voilà, The Quiet Man 2, il serait peut-être temps aussi d'y songer. Donc bah oui, si Square Enix commence à s'agiliter, et puis plus en plus de studios qui ouvrent aussi, enfin, qui délient un petit peu.
Il y a eu Ubisoft aussi, dont on avait parlé, qui a repoussé toute une série de jeux pour la prochaine année fiscale, et donc une partie sur des consoles de nouvelle génération.
Mm. Sans parler aussi évidemment que Ryan aime bien mettre en avant le fait que la console est facile à programmer. Il n'y a pas longtemps on nous disait que c'était la console la plus rapide de tous les temps. Bref, si Sony communique pas encore officiellement sur la PS5, il y a des chances qu'avant la fin de l'année ça soit le cas, et que on découvre des trucs d'ici avant l'E3, même largement avant l'E3.
Ah bah, il faudra communiquer bien avant, je pense.
Qui vont être assez fous. En tout cas, il n'y aurait pas autant de mouvements si c'était pas le cas. Sans oublier aussi cette annonce pour Naughty Dog, qui serait en train de plancher sur un jeu multi.
Mais ça, on ne sait pas ce que ça veut, par contre.
On ne sait pas, c'est mais après, mystère. Ils ont parlé du mode faction de Last of Us 1 il n'y a pas très longtemps, qui est aimé des fans et
mais
sur lequel ils aimeraient bien.
Ils voulaient pas le relancer, ça.
Ils veulent pas l'intégrer aux deux.
Au lancement,
mais
en tout cas.
Peut-être qu'ils sont en train de
développer. Est-ce qu'ils font un jeu complètement à part
Ou alors peut-être que Sony leur dit écoutez les mecs, c'est bien, mais maintenant on va se mettre aussi un petit peu nous au jeu service, parce que il y a des jeux qui carburent comme Fortnite ou autre. Peut-être que nous aussi on pourrait tirer notre épingle du jeu dans ce domaine.
Peut-être.
Il y a tellement de possibilités là que.
Et puis sortir un mode éventuellement multi. Alors on spécule bien évidemment, mais sortir un mode multi pour The Last of Us 2, sachant qu'ils sont déjà vraiment en train de charbonner pour finir la partie solo. Ça peut être un moment dans le calendrier où tu refais parler du jeu à un moment propice où tu peux justement le porter assez facilement sur PS5 comme Naughty Dog l'avait fait avec le premier.
Il sera compatible de toute manière sur PS5.
Oui, évidemment, mais ça permet de recommuniquer dessus et peut-être de mettre en lumière justement un éventuel portage. Il y a plein de choses entre guillemets assez faciles qui peuvent se faire pour porter la console sur sa première année de commercialisation.
Bah ouais.
Bah ouais. C'est tout ce qu'on a à dire là-dessus.
Et
en fait.
Et puis à titre personnel, je sais pas.
Allez,
comment.
Allez, vas-y, dis tout, Thomas. Qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal?
Je fais vite, t'inquiète pas. Mais le reclassement de Shuhei Yoshida, qui a surpris quand même tout le monde, parce que c'est un visage éminemment sympathique et quelqu'un qui est très talentueux dans ce qu'il fait. Même si forcément ça chagrine un petit peu, le fait qu'il s'occupe des relations avec les développeurs indépendants, j'espère que ça va amener Sony justement à se bouger peut-être un petit peu de plus sur la prochaine génération, parce qu'ils ont eu tendance à lâcher un petit peu de lest ou à se contenter de.
Il y a eu
de...
beaucoup de promesses il y a quelques temps, et puis c'est vrai qu'on n'a pas forcément vu beaucoup.
On n'a pas eu de grosses exclus indés qui ont véritablement marqué la PS4, je trouve, sur cette gêne. Donc si Yoshida arrive à faire des merveilles à ce niveau-là, moi je n'en serais que ravi, bien évidemment.
Bah, il aime bien voyager, il aime bien parler, il aime bien se montrer.
Peut-être que son rôle
bouffer.
Sera meilleur, effectivement. Au cœur des indés.
Oui, puis au bout d'un moment, être à la tête de la marque PlayStation, t'as peut-être envie de faire autre chose, quoi. Ça pèse ?
Ça pèse dans le game, ouais.
Ouais.
Est-ce que Kojima, il va pas être à la tête de la PS5 un jour ? T'imagines ?
Non.
Avec des jeux tous chelous, tous plus chelous les uns que les autres ? Bah, on sait pas, hein.
Bah, non.
Tu sais, mais maintenant, comme il aime bien Sony et que c'est des potes. Qui sait ? Hein ? Et vous l'aurez entendu ici en premier.
Ok.
Et vous verrez.
Bah on verra dans 5 ans
que j'avais
pas encore de ta gueule pour ça.
Ah, que j'avais pas raison.
Voilà. Bah voilà. Hein. Exactement.
Non, mais il y a un vieux blanc là. Mais on verra.
Bah, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre une communication véritablement officielle.
Exactement.
Quoi.
Qui devrait arriver après la sortie de The Last of Us 2, peut-être. Il serait peut-être temps, parce que, à part le nom de la PS5, on sait pas vraiment grand chose.
Oh bah ça sera sûrement la dernière fois où ils vont en parler. Ou alors ça sera aussi pour ils s'en serviront aussi
pour
mettre en avant la PS5 et ses capacités quand il sortira, mais c'est sûr que ce sera le dernier gros jeu de la PS5, de la PS4.
La PS4, ouais. La fatigue. Voilà, bon, on en a fini avec ce thème, hein. C'était un petit peu plus court, mais bon, comme on avait passé beaucoup de temps sur Planet Zoo, il faut rééquilibrer les choses. Et si on passait au thème numéro 3 maintenant, avec les tests de la semaine. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, c'est toi qui décide en même temps.
T'es le patron, hein, tu sais.
Et After Party, ça, cette plume, c'est toi qui l'as testé?
Oui, alors.
Alors, t'as kiffé ou pas? Ok, salut. Bon, bah, Thomas, toi, t'as joué à Black Sad.
Alors, After Party, c'est un peu. Ça va être une de mes plus grosses déceptions de l'année, malheureusement.
Tu connais Après la Teuf?
Et j'en suis un peu navré. C'est
pourtant t'es dans la maison de Satan.
Night School Studio, donc, qui avait fait Oxenfree il y a quelques années, qui a un super petit jeu d'aventure,
ouais, que j'ai
pas
fait,
trop
d'ailleurs.
Prétentieux et assez court, mais qui avait pas mal de qualité dans sa mise en place, notamment le fait qu'il y ait une espèce de suite de dialogues ininterrompus dans le jeu, quoi qu'il arrivait. On avait l'impression qu'il y avait une espèce de naturel assez incroyable entre les acteurs quand ils se parlaient les uns aux autres, et que c'était vraiment très très bien articulé dans le jeu, qui avait pas un scénar extraordinaire non plus, mais qui était un petit jeu, on va dire, d'angoisse sympathique, d'angoisse et de fantastique plutôt sympathique. Là, on se retrouve avec une toute autre ambiance. C'est deux jeunes étudiants qui viennent de célébrer en gros leur passage à la vie d'adulte. Hein. Ils ont eu leur diplôme et en fait ils sont morts.
Ils sont couverts de dettes.
Ils sont morts. Voilà, ils sont morts.
Chez Satan.
Ils se retrouvent en enfer.
Tu connais Natas?
Comme des cons. Et
pourquoi comme des cons? Peut-être.
Parce qu'ils savent même pas pourquoi. Personne ne leur explique.
Si, ils savent.
Non, personne ne leur explique en fait quand ils arrivent en enfer.
Il y a plein de morts qui savent pas qu'ils sont morts.
C'est vrai?
Ouais. C'est ce que j'ai cru comprendre.
Ils se retrouvent en enfer sans savoir pourquoi ni comment ils sont morts. Évidemment, avec les horreurs de bureau, au moment où ils sont censés voir leur cas traité pour savoir quelle va être leur punition pour l'éternité et autres, et c'est le moment où les guichets ferment. Donc, du coup, ils se retrouvent comme des cons à errer en enfer pendant toute une nuit en attendant de savoir quoi faire. Et leur vient aux oreilles une rumeur, une idée, un concept, que s'ils arrivent à battre Satan à un jeu de boisson, ils pourront peut-être retourner parmi les vivants. Voilà, c'est un peu le pitch du jeu qui permet de se retrouver dans un enfer complètement loufoque et très bien designé en termes de direction artistique.
Ouais, c'est bon, moi j'aime bien, en tout cas.
C'est vraiment costaud.
C'est plutôt sympa.
Et ça ressemble un petit peu à... Ça navigue entre les des espèces d'environnements désertiques lugubres et des espèces de coupe-gorge de Détroit ou je ne sais quelle autre ville américaine dégueulasse,
en perdition,
avec des bars et des néons partout. Il y a un humour qui est omniprésent dans le jeu, comme c'était le cas avec Oxenfree, des dialogues en permanence. Les deux acteurs principaux, dont Janina Gavankar, qui était l'héroïne de Star Wars Battlefront 2, sont excellents, même si ma préférence ira forcément à Satan, incarné par Dave Fennoy, qui était le lièvrette de The Walking Dead, qui joue un Satan qui, on dirait, une espèce de star du rap, qui accueille chez lui des gens en permanence pour entretenir la fête, mais qui est un peu désabusé aussi. Il est vraiment excellent dans ce rôle-là, comme les autres personnages qu'on va rencontrer, comme Ashley Burch, évidemment, toujours parfaite, qui joue une espèce de chauffeur de taxi qui va nous conseiller. C'est ultra référencé, c'est joli, c'est drôle.
Il jouait dans Walking Dead, le Satan?
Il jouait Lee Everett. Non, pas dans la série, dans les jeux.
Ah,
voilà, okay. Il jouait le papa de substitution de Clémentine dans les jeux The Walking Dead. Et donc, il y a des moments qui sont vraiment très réussis, mais de manière générale, il y a un gros regret par rapport à ce jeu-là, c'est qu'en termes d'options, de choix, zéro impact. Alors clairement zéro. On passe beaucoup de temps à se balader dans les décors où il n'y a pas d'interaction. Moi j'aurais bien aimé que, et je pense pas être le seul, hein, qu'on puisse se retrouver avec des descriptions, des choses à faire, des choses à lire. Mais en fait on se retrouve dans des décors dans lesquels on arrive au bout, puis on se dit ok, qu'est-ce que je peux faire là par ici? Rien. Voilà, il y a rien à faire. C'est des enchaînements de scènes finalement entre lesquels on va marcher, parfois beaucoup, supporter des dialogues qui vont se répéter aussi parce que le jeu, il a des bugs qui sont incroyablement violents. Le pire que j'ai pris dans la tronche c'est pendant un mini-jeu de danse. Alors je vous spoil un tout petit peu, mais il y a un mini-jeu de danse pendant lequel en fait j'avais un démon qui était en premier plan et qui me masquait complètement l'interface. Alors après c'est un jeu de Simon, donc heureusement on peut faire ça à l'oreille.
Exact.
Mais c'était abominable cette séquence là. Les mini-jeux qu'on vous propose sont pour la plupart sans intérêt. Le jeu de beer pong, ça sert à rien. Le jeu de boisson où on doit empiler les verres, c'est mal expliqué, c'est plutôt frustrant au début et après bah c'est juste mauvais. Bref, il y avait d'autres choses à faire peut-être pour explorer déjà tout le background qu'ils ont réussi à construire autour de cet enfer qui est vraiment charmant. Et puis puis voilà, il y a tous ces bugs et c'est vraiment dommage parce que il y avait un fond qui était super réussi. Ce qui est dommage aussi, c'est que le jeu n'est que en anglais, encore une fois, comme Oxenfree à l'époque. Pour avoir des traductions, il va falloir attendre un petit peu.
Florence Veto, je te le dis.
Ce qui fait que, voilà, pour moi, c'est un jeu qui est satisfaisant, mais que j'aurais bien aimé voir dans très bon, voir en fantastique. C'est malheureusement pas le cas. Et c'est bien dommage parce que ils ont du talent chez Night School, mais je crois qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, malheureusement.
Ok, bah parfait.
Donc voilà, c'est un petit 6.
Tu te rappelles la note ? Ouais, c'est ça, t'as eu 6. Il a eu 6 sur 10 sur Gameblog et vous pouvez évidemment lire la critique de Maître Plume. Si ceci vous intéresse, passons maintenant à un autre test que Tiger a réalisé pour nous, sur Fourbe. C'est Mario Scénic au JO de 2020. Eh bien écoutez, moi j'y ai joué. Il a mis 6 sur 10 et je voulais en avoir le cœur net parce que moi j'aime bien... Non, mais pas pour contrôler.
Tu fais ça à tous les tests.
Je te fais entièrement confiance.
Rejoue à tous les jeux derrière.
Non, je peux pas, j'ai pas le temps, mais c'est impossible. Non, mais j'aime beaucoup les jeux de multi-épreuves, etc. Qui me font toujours kiffer parce que voilà, j'aime bien tapoter sur les manettes et
sur les gens aussi.
Et aller au bout de la performance pour voir ce que ça donne. Mais écoutez, c'est vrai que bon, graphiquement, c'est assez basique, hein, y a rien d'exceptionnel, pour être honnête.
C'est la même direction artistique que les épisodes
exactement,
précédents.
Exactement, c'est toujours pareil. Donc là, évidemment, c'est les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, l'année prochaine. Et comment dire, c'est pas que c'est difficile à expliquer, mais je m'attendais vraiment à mieux que ça, pour être très honnête. Parce que les épreuves, elles sont vraiment très très simples. Déjà, les choix des épreuves, je les trouvais un peu bizarres, mais bon, soit. J'aurais préféré avoir plus d'épreuves d'athlétisme plutôt que des trucs de chevaux, de machin, donc. On s'en fout complètement.
C'est toujours comme quand ça a commencé bien, la série, c'est-à-dire par exemple, t'as des trucs de GRS où tu dois faire des QTE à une vitesse assommante.
Je voulais en parler à la fin parce que je trouve que cette épreuve, elle est absolument impossible, mais vraiment impossible. Il y a des coefficients de difficulté justement dans les épreuves de GRS de gymnastique, le cheval d'arçon par exemple, et le mode de difficulté ultra difficile. Je sais pas qui peut y arriver. Pour moi, ça me paraît improbable. Mais vraiment. Rien que le premier niveau, il y en a 6 ou 7, je crois, je sais plus exactement. Donc, du facile à ultra difficile. Rien que le premier, déjà, c'est compliqué, c'est chaud pour y arriver. Mais tu arrives. De toute façon, tu.
Ce que je voulais dire, c'était encore une fois un gameplay plutôt mollasson et sans vraiment.
Oui, voilà, exactement.
Il y a sans grande recherche.
Il y a rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Pareil, pour la course, le 100 mètres, bah voilà, tu tapotes sur les trucs. Le saut en longueur, tu tapotes. Et puis, à un moment donné, tu vas t'arrêter pour mettre le degré l'angle de ton saut pardon pour
aller comme tous les jeux olympiques
oui,
jusqu'à maintenant
pour ça me dérange pas mais c'est vraiment basique en fait, c'est très 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 basique et c'est vrai quand on voit les images on se dit ouais ils ont quand même fait des efforts et tout machin, c'est sympa, le karaté c'est sympa aussi, mais bon les épreuves à chaque fois tu les fais une fois, deux fois, trois fois pour essayer de battre ton record et d'aller le plus loin possible. Mais c'est tout quoi, tu vas pas beaucoup plus loin.
Tu veux dire qu'il n'y a pas de profondeur véritablement.
Exactement,
dans le gameplay.
Tu t'ennuies quand même au bout d'un moment.
Et j'imagine qu'il n'y a pas d'ambiance non plus.
Il n'y a pas d'ambiance, je sais pas, c'est très 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 bizarre. Vraiment très bizarre. Et parfois le gameplay est un peu chelou, notamment dans la natation, je trouve ça bizarre comme système. Il faut, pareil pour le kayak, il faut réguler les manettes, les deux sticks, etc. En même temps, c'est pas ça très 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 bien fait quoi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment pas fait tester le truc à des joueurs parce que c'est un peu bizarre. Le ping-pong pareil, le ping-pong c'est hyper simple, tu gagnes tous les matchs 3-0 sans aucun problème. Il y a le côté aussi
rétro
c'est injouable,
c'est vrai,
vraiment c'est nul.
C'est ce qui m'aurait fait acheter le jeu à la base.
Franchement non, mais alors pas du tout. Le rétro il est injouable et c'est pas que c'est injouable, mais il y a pas d'intérêt, il y a aucun intérêt à jouer en mode rétro vraiment. C'est, à part voir des petits pixels comme à l'époque, je sais pas. Enfin, moi, je vois pas l'intérêt d'avoir mis ça, honnêtement. Là,
Est-ce qu'il tire parti des Joy-Con avec le motion gaming pour certaines épreuves?
Parce qu'on l'a
entreaperçu dans une pub.
Alors, c'est possible, mais je t'avoue que je l'ai pas fait, ça.
Ouais, t'es resté à l'ancienne.
Ouais,
avec,
ça, je suis resté à l'ancienne. Mais effectivement, tu peux le faire. Ouais. Tu peux le faire. Mais j'ai pas trouvé ça.
Est-ce que t'as envie vraiment de te crever les bras sur des jeux comme ça?
Bah, c'est ce que tu fais sur Ring Fit.
Non.
Tu te fais des fesses de.
Après, c'est pas les mêmes.
De demi-dieu.
Non, non, non. Moi, j'ai une bonne raison de le faire.
C'est vrai?
Ça, c'est juste gigoter pour rien faire. Moi, je fais des gestes
des
bien précis.
Ouais, d'accord.
Pour okay. que mes muscles soient
okay,
performants.
Exactement. Non, mais ce qui est juste bien dans Mario Scenic JO 2020, c'est qu'effectivement, bah voilà, tu vas repousser tes limites à chaque fois. Le 100 mètres, tu vas essayer de battre le record, celui de ton voisin, etc., etc. Mais bon, c'est du vu, déjà vu. Ça se voit que c'est vraiment un jeu marketing pour les JO, comme ils le font depuis maintenant quelques temps.
Bah au moins c'est le dernier. On est content comme ça.
Mais non, c'est pas sûr. Ça c'était du pipo.
Ah bon?
Ouais.
Ah bah je croyais. Bah
c'était du pipo. C'était un faux site qui avait balancé cette info. Et c'est pas très bien. Après, il y a effectivement des épreuves rêves, comme ils aiment bien les appeler, avec des épreuves un petit peu loufoques, qui sont pas des épreuves olympiques, mais un petit peu qui partent un peu dans tous les sens. Voilà, donc il y a rien d'extraordinaire, honnêtement. Si, je pense que ça les vaut, parce que voilà, ça casse pas trois pattes à un caneton. Et voilà, donc c'est un peu dommage, parce que moi qui adore les épreuves multi, bah, j'étais un petit peu déçu et je suis resté sur ma faim. Donc voilà, vous allez jouer une fois, deux fois, et puis.
Ouais, après, donc à éviter si on a déjà fait les autres en fait.
Franchement ouais. Ou alors vous jouez vraiment avec des potes si vous pouvez
et bourré. Et bon,
voilà exactement. Moi j'ai pas trouvé ça extraordinaire.
Ça corrige plein de trucs ça. C'est dingue.
Exactement. Voilà donc pour Mario Scenic JO 2020. 6 sur 10 sur Gameblog. Voilà. De toute façon en plus on les a fait gagner sur Twitter. Donc si vous les avez gagnés c'est cool. Hein. C'est toujours bien de ne pas l'acheter au moins. Vous serez pas déçus quoi. Mais voilà. C'est quand même la déception. Je m'attendais quand même à mieux que ça. Donc voilà. Un peu triste. Sur
c'est
ce coup-là.
Bah pleure pas. Hein.
Tout à fait. Et un jeu aussi la tristesse avec Black Sad Thomas, n'est-ce pas que tu as pu tester?
Bah oui. Tristesse noire.
Qui porte bien son nom du coup.
Exactement.
Le dernier jeu de Pendulo, édité par Microïds et qui nous met enfin dans la peau de John Black Sad, l'inspecteur de la BD du même nom.
Et qui semblait très prometteur. Enfin en tout cas graphiquement moi je.
Qui semblait prometteur quand on l'avait vu en preview, c'était.
Non, c'est toi qui l'avais vu.
C'était vraiment assez engageant. Il y a un parti pris dans le gameplay. Il y a un univers qui est très fidèle à la bande dessinée, on respecte vraiment l'ambiance, les personnages, les thématiques, ce côté anthropomorphe qui marche bien puisque chaque personnage que vous allez rencontrer est une espèce animale qui correspond toujours à son caractère ou à sa fonction, c'est toujours quelque chose de très drôle à découvrir. Et pour le coup c'est une histoire originale, c'est une nouvelle enquête qui n'est pas directement adaptée de l'une des bandes dessinées. En même temps, comme ça permet à tout le monde d'avoir un minimum de surprise. Et ça commençait pourtant bien, puisque dès l'intro, dès l'écran titre, on a le cadrage très cinématographique, très étudié de la bande dessinée, et on découvre en fait, en même temps que l'un des personnages, que le tenancier d'une salle de boxe s'est suicidé sur le ring, pendu au bout d'une corde, et c'est évidemment à John Black Sad qu'on va faire appel pour essayer de démêler justement cette drôle d'affaire. Alors, il y a tout un tas de thématiques qui sont abordées, les paris truqués dans le milieu du sport, évidemment le racisme, il y a des identités un petit peu cachées, la ségrégation sociale, l'exploitation justement d'une partie de la population. Il y a plein de choses qui vont être comme ça passées en revue au travers de l'intrigue. C'est bien écrit, mis à part un petit moment dans l'aventure où t'as l'impression qu'ils étaient coincés, ils se sont dit tiens, hop, on va lui faire tomber ça dessus et puis comme ça c'est réglé, l'intrigue peut avancer. En dehors de ça, il y a une belle écriture qui est vraiment respectueuse du ton. Toutes les versions doublées sont plutôt convaincantes, que ce soit j'ai essayé en espagnol aussi parce que comme les auteurs sont espagnols,
c'est Pendulo, là, exactement.
Même si j'en parle pas un mot, j'ai testé quand même, ça marche plutôt bien. Le français est assez convaincant, l'anglais est vraiment bon. Donc on a une ambiance qui marche très bien. On a des mécaniques de jeu qui sont vachement intéressantes aussi, parce que c'est évidemment un jeu d'aventure, donc on va errer comme ça dans des décors, parler à des personnages, ramasser des items pour faire avancer l'intrigue. Mais ça va pas se faire tout seul, puisque à la manière d'un Ace Attorney, en tout cas pour les derniers épisodes, à un moment donné, quand on a récupéré suffisamment d'indices, d'idées, de témoignages, il va falloir les relier entre eux dans un menu à part, où on va se plonger un peu dans la réflexion de Black Sad et réussir justement à trouver les bons items, les mettre ensemble pour faire avancer justement l'intrigue, débloquer des options au niveau des dialogues avec les personnages. Et tout ça marche bien. Sauf que, à côté de ça, sur la partie technique, le jeu se casse la gueule sur à peu près tous les points. On a On dirait pas avoir comme ça. Le trailer est très joli, mais ne serait-ce que là on voit des dialogues par exemple
quant au chien.
En termes de, je vais pas dire synchro labial, mais la manière dont les personnages parlent, il y a quelque chose de très... ça fait marionnette. Ça fait un petit peu marionnette animée avec une main à l'intérieur. Il y a quelque chose de pas forcément très naturel. On a souvent des gros problèmes de collision, notamment parce que le jeu a pas forcément été peaufiné jusqu'au bout, mais en plus parce qu'on a une caméra qui est souvent fixe et qui nous embête un petit peu dans les déplacements. On aimerait bien pouvoir changer d'angle et de point de vue à certains moments, on ne peut pas. On doit rester avec une caméra un peu mollassonne, figée, qui nous facilite pas toujours la tâche. D'autant plus que les différents environnements sont assez peu variés au final sur la totalité de l'aventure, parfois étriqués, donc il y a des moments où on a vraiment du mal à se déplacer correctement, et c'est assez dommage parce que en soi c'est vraiment plaisant de mener l'enquête. Il y a en plus différentes manières de réussir à progresser. J'ai fait des choix très différents dans cette version test par rapport à la version preview, ouais. Et on voit qu'on arrive évidemment au même point, on fait avancer l'intrigue de la même manière, mais on a pris des chemins différents, on est allé parler à des personnes qui nous ont pas forcément raconté les mêmes choses en fonction des choix que vous allez faire, ce qui va vous permettre de construire un personnage aussi, parce que en fonction de tous les choix que tu fais, des promesses que tu tiens ou que tu ne tiens pas, de la façon dont tu te comportes de manière citoyenne, tu vas modeler ton personnage et avoir ton Black Sad qui va être plus ou moins perfide ou plus ou moins gentil. Donc ça, c'est quelque chose d'assez plaisant à voir. Il y a tout un tas de petits collectibles en la présence de cartes Panini à coller dans des almanachs sportifs qui, permet d'explorer un petit peu les décors plus en profondeur. Mais voilà, techniquement, ça marche pas du tout. On a même des vrais soucis qui sautent aux yeux et qui auraient pu être corrigés assez facilement, comme les textes qui des fois dépassent en fait des cadres. Le jeu va te couper une partie du texte, pas dans les sous-titres, mais dans les items que vous allez pouvoir récupérer. Il y a des choses qui font preuve d'un manque de finition globale, et c'est d'autant plus dommage que le jeu avait été un petit peu retardé, justement, sans doute pour être fignolé jusqu'au bout.
Il paraît qu'ils attendent une grosse mise à jour à la sortie.
Alors officiellement
sur la version physique.
Officiellement sur console, il y aura une mise à jour. Sur PC, j'ai cru comprendre que c'était pas le cas.
D'accord.
Et du coup, j'ai joué sur PC, et même avec les stats, les spécificités poussées à leur maximum, on n'est pas face à quelque chose de véritablement terminé, fini, qu'on peut proposer comme ça. Alors, j'ai envie de vous dire, si vous êtes vraiment fan de la BD, on a l'esprit, on a une intrigue intéressante, on a de nouveaux personnages qui sont vraiment passionnants à découvrir, à comprendre, puisque rien n'est aussi simple qu'on pourrait le croire au premier abord. Il y a vraiment beaucoup de choses non dites qu'il va falloir mettre au jour. Donc pour ce coup-là, c'est vraiment, vraiment très intéressant de se plonger dedans. Mais pour les autres, si vous voulez juste vous y intéresser comme à un nouveau jeu d'aventure, malheureusement, il n'est pas assez solide sur le plan technique pour mériter de s'y intéresser. Donc j'ai envie de vous dire, fan de la BD, mettez-le dans un coin de votre tête, attendez qu'il soit bradé un petit peu moins cher et éventuellement mis à jour. Et là, vous aurez quelque chose d'intéressant parce que l'écriture, les mécaniques de gameplay font que on peut lui pardonner toutes ses défaillances techniques si on accroche véritablement à l'univers. Donc voilà, vous devez a priori déjà savoir de quel côté vous penchez. Si vous êtes vraiment fan, je vous conseille d'y aller d'ici quelques semaines ou quelques mois. Pour les autres, malheureusement, je vous conseille plutôt de passer votre chemin, parce que des jeux d'aventure intéressants, bien écrits et surtout mieux fignolés techniquement parlant, il y en a quand même pas mal. Donc malheureusement, on n'a plus qu'à espérer que Pendulo s'attelle à un deuxième épisode qui corrigera tous ces problèmes, et c'est bien triste.
Justement, on ne sait pas si Pendulo va refaire un épisode original ou s'ils vont refaire un jeu complètement différent de ce qui, de cette tentative. En fait, c'est la première fois qu'ils font un jeu à partir d'une bande dessinée.
Hein, d'une licence comme ça.
Licence connue.
C'est dommage parce que
ça va les refroidir,
encourageant, ouais. Mais il faut bosser toute la partie technique pour que le jeu puisse véritablement décoller.
Ok, donc t'avais mis 5 hein,
5 parce que c'est moyen, on est vraiment le cul entre deux chaises. Il y a toute cette belle écriture, cette intrigue, cette ambiance, mais tous ces problèmes derrière, ils sont quand même assez conséquents, ce qui fait que on est vraiment pile poil à la moitié.
D'accord, parfait, écoute, merci beaucoup.
Et c'est dispo sur PC, PS4 et Xbox One.
Tout à fait, il n'y a pas de souci. Donc si vous voulez y jouer, essayez-le.
Depuis vendredi dernier, il devait sortir vendredi, il est sorti vendredi dernier de manière un peu précipitée.
Et oui, on n'en dira pas plus. Lisez le test et puis voilà. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Et si on passe à l'anniversaire, monsieur Thomas P.
Ouais, ok, bah si tu veux. Mais du coup, je vais passer la parole à Plume parce que
effectivement,
c'est lui, c'est lui qui fête son anniversaire
exactement.
Aujourd'hui.
Tu sais l'anniversaire de quoi, Plume?
Oh là là, c'est un anniversaire qui nous
rajeunit
pas, l'alarme à l'œil personnellement. Ah oui, parce que en
est-ce que tu veux un coup de latte,
le 18 novembre 99 sortait au Japon Chrono Cross.
Et août 2000 aux US d'ailleurs.
Qui arrivait en août 2000 aux États-Unis, c'est je crois.
Ouais, je suis fort, hein.
Bah d'ailleurs c'est en août 2000 que je l'ai commencé sur PS1.
Comme par hasard.
Je l'avais chopé direct en import parce
qu'il est jamais sorti chez nous.
Parce qu'exactement, il n'est jamais sorti en Europe.
Sacré.
Et c'est un putain de drame.
Mais
si
toi t'as même pas dit le nom, t'imagines?
Bah c'est Chrono Cross.
Ah bah voilà.
Bah, je crois que je l'ai dit déjà. Non, okay, je l'ai pas dit.
Okay, moi, il me semble que oui.
Moi, je crois que je l'avais
okay,
dit.
Ok,
hein.
Tu m'as eu, mec.
Alors, Chrono Cross, donc, qui est la suite de Chrono Trigger, le jeu de légende dont on a déjà aussi parlé en anniversaire, je crois, il y a pas très longtemps, qui est cette association de rêves qui avait été faite sur Super Nintendo entre Akira Toriyama, Hironobu Sakaguchi et Yuji Horii, tout de même. Eh bien, là, Chrono Cross, personne. Toriyama, bah non, il est pas au design. Sakaguchi à la prod, non, c'est pas lui. Yuji Horii pour le cinéma, non, aucun des trois n'est là. Et c'était peut-être à l'époque une des craintes qu'on pouvait avoir en disant, bah, attends, s'ils sont plus là, l'esprit de Chrono Trigger, bof, quoi. Et donc, c'est réalisé par Masako Kato, qui est connu notamment pour avoir été scénariste sur Xenogears, sur Final Fantasy XI, et qui, en fait, est celui qui a en brodé autour du script de Yuji Horii de Chrono Trigger. C'est un peu lui qui est techniquement le papa de tout ce qui concerne Chrono, que ce soit Chrono Trigger, Radical Dreamers, qui est une sorte de spin-off préquel de Chrono Cross qui est paru sur Super Famicom, sur Satellaview, que je dise pas de bêtises, en 96. Voilà. Et donc, il y a lui à la réal, il y a Michi Tanaka à la production, qui est quand même le réalisateur de Seiken Densetsu 3. Donc c'est deux personnes qui chez Square Enix ont du bagage pour faire du bon jeu. Et Chrono Trigger, bah j'ai envie de souhaiter son anniversaire parce que déjà 20 ans, c'est beau, et surtout que c'est ce jeu est une vraie merveille de tous les niveaux, de tous les points de vue, je veux dire. On a pu voir, peut-être pour ceux qui sont en vidéo, l'intro qui est absolument mémorable avec une musique complètement folle. Et d'ailleurs les musiques, ce n'est pas Uematsu avec Mitsuda qui s'est occupé de la composition, c'est Mitsuda tout seul, et il a réussi encore une fois un tour de force monstrueux pour les ambiances de chacun des décors qu'on traverse. Alors le jeu, vous le remarquez, et n'est plus un jeu avec des graphismes tout mignons, hein. On a adopté un ton un poil plus adolescent, adulte, avec des décors faits à la main, absolument, dans lesquels évoluent des modèles 3D, comme c'est le cas pour un FF7 ou un FF8 ou un FF9 notamment. Donc le jeu est absolument somptueux, il arrive quand même en 99 et c'est le moment où la PS1 est en fin de vie et elle est largement maîtrisée par les développeurs. C'est beau, le scénario est monstrueux, mais alors vraiment monstrueux. Il y a des embranchements de tous les côtés. Vous avez un nombre de personnages que vous allez pouvoir recruter dans l'équipe de Serge le héros avec son bandana qui est effarant. Et en plus de ça, suivant vos parties, bah vous aurez des personnages qui seront absolument différents à recruter. Il y a un coup où vous pourrez croiser un personnage, et si vous recommencez la même partie, peut-être même dans les mêmes conditions, bah vous n'aurez pas le même personnage à croiser ou à recruter. Il y a beaucoup, beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Les combats sont extraordinaires aussi. On n'en parle pas, on va peut-être pas développer, mais c'était un système d'affinité par rapport à des éléments qui fonctionnait vraiment très, très, très bien. Vous pouviez aussi éviter, d'ailleurs, de faire des combats aléatoires, hein. Vous baladez dans la map et tout d'un coup, vous voyez l'ennemi, bah vous dites non. En fait, je vais le contourner. C'était faisable. Je vous parlais du nombre d'embranchements dans le jeu. Il y avait évidemment plusieurs fins qui étaient possibles en fonction de différents choix. Et ce qu'on retient, en ce qui me concerne, ce que je retiens le plus, c'est un énorme twist au milieu du jeu qui renverse vraiment la table par rapport au scénar, qui permet un peu plus tard de faire le lien avec Chrono Trigger aussi. Et vraiment, c'est un jeu qui doit encore être fait aujourd'hui. Hein. Vous pouvez le lancer, il reste assez jouable, assez joli aussi à regarder. Et j'en profite pour rappeler aussi au passage, s'il y en a parmi vous qui sont à Tokyo, non pas à Tokyo, au Japon juste, il y a Osaka normalement qui doit être servi ce 16 novembre. Eh bien, il y a une série de concerts que Yasunori Mitsuda a organisé, qui a démarré à Tokyo justement le 3 novembre pour les 20 ans de Chrono Cross, un concert symphonique dans lequel il passe évidemment des extraits du jeu en même temps que eh bien il joue toutes les musiques marquantes.
C'est pour ça qu'il y a les Illuminati au Japon sûrement, peut-être qu'il a été voir ça.
Pas peut-être, c'est possible. Bref, c'est 20 ans passés avec ce jeu, je le refais assez régulièrement et à chaque fois ça reste une super expérience.
Non, mais c'est vrai, à chaque fois tu te le refais du début à la fin.
Non.
Non, d'accord.
Non, ça c'est FF6.
Mais de temps en temps.
Mais Chrono Trigger, il m'arrive de le ressortir, ouais.
Putain, j'ai du mal moi, à refaire des jeux comme ça d'il y a 1000 ans.
C'est vrai.
Que j'ai fini, que j'ai adoré, mais voilà quoi. Moi je le refais pas.
Bah,
mais bon, après je suis super RPG, donc forcément peut-être que c'est pas la même nostalgie, je sais pas. J'en sais rien.
Bah, ok, comme
tu veux. Et du coup, t'as pas peur quand tu revois les graphismes d'époque, non?
Ah, franchement, il est propre. Hein.
Le plaisir est toujours. Mais c'est vrai que oui, pour la PS1, c'est juste.
Bah voilà,
petit. À l'époque, c'était fabuleux quoi.
Moi je joue sur une PS2 avec un câble.
Ah bah oui, c'est vrai, tu peux,
avec un câble HDMI qui affine l'image.
Ouais.
Alors là, je vais te dire, ça passe
tout
seul.
C'est
hein.
Propre du coup.
Exactement.
Bah parfait, donc merci Plume. Donc 20 ans, 18 novembre 99, presque 20 ans.
Ouais.
Jour pour jour au Japon donc. Et août 2000 aux US. Et donc il est jamais sorti en France, hein, c'est ça?
Eh bah ben non, ça fait partie de ces jeux comme Xenogears, qui est aussi c'est scandaleux que Xenogears ait jamais été.
Bah attends, ça va peut-être revenir.
Ait jamais été commercialisé en Europe. Ça fait partie des deux meilleurs RPG probablement que Square Enix, enfin que Squaresoft
ouais.
a produit depuis sa création tout simplement. Et non. Non.
De RPG avec beaucoup de textes.
C'est vrai que c'était la politique.
Pour Xenogears comme Chrono Cross, a priori. Donc ceci explique aussi peut-être.
Ah oui, bien sûr, mais
cela.
Ça les empêchait pas de les balancer même en anglais. Hein.
Ah mais franchement, pas le contraire.
Surtout qu'il y avait
comme ça que j'ai découvert FF6, donc ça me va.
Il y avait vraiment de la demande à l'époque. À partir de la FF7, il y a eu une demande tellement folle pour le RPG. On s'est tapé tellement de trucs moyens, merdiques, qu'on les achetait parce qu'on dit ah bah c'est un RPG. Donc du coup, on va se dire ouais, tu vois. Bon, après, ça m'a fait connaître Wild Arms personnellement. Donc j'en suis plutôt content. Mais tu vois, des jeux comme Jet Cocoon ou je sais plus quel autre machin, Bahamut Lagoon je crois, enfin des jeux qui étaient sensiblement moyens, mais
ça
tu...
c'est sur Super Famicom.
Non, je confonds avec un autre truc qui finit en
mais
qui
est jamais
Lagoon.
Sorti chez nous non plus.
Exactement,
je
peux
pas vous aider là, je suis désolé.
Un truc avec Lagoon aussi, mais bon bref, il y a plein de jeux comme ça qui ont eu la chance en fait de sortir à cette époque, qui n'étaient pas forcément bons. Et il y a des jeux par contre, on les a jamais eu chez nous comme lui. Et c'est vraiment 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 dommage.
Et ben voilà, c'est bon de le rappeler. Donc Chrono Cross, 20 ans tout juste ou presque. La larme à l'œil,
ouais.
N'est-ce pas?
Au slip aussi.
Et au slip. Parfait, donc c'était pour l'anniversaire, merci beaucoup. Et on va passer tout de suite à notre fameuse rubrique hors-jeu. Avec Thomas.
Eh oui.
Thomas, de quoi tu vas nous parler dans le hors-jeu cette semaine?
D'un bien joli livre, ma foi. Pour le coup, ce n'est pas Tiger qui va vous en parler. Et pour cause, le voici. C'est Metal Slug The Ultimate History qui est sorti une fois de plus chez Bitmap Books. Bitmap Books dont on vous a déjà parlé plus d'une fois, qui avait fait une rétrospective visuelle, notamment de la Neo Geo. Cher Plumeau, tu avais acheté...
Le point and click, on l'a reçu ici. Et Trace l'a gardé, mais je l'ai acheté. Et l'Amiga aussi.
L'anthologie
Visual Compendium de l'Amiga
qui a été fait aussi pour la Master System. Enfin bref, ouais. Une maison d'édition britannique qui s'attarde généralement sur le pixel art. C'est des gros fans de pixel art chez Bitmap Books.
Exact.
Et là en l'occurrence, c'est un bouquin officiel adoubé
que je vais voler
par SNK. Alors que tu vas pas voler du tout, parce qu'il va finir chez One.
Ok, tu m'as eu.
Et qui, comme son nom l'indique, revient sur la saga Metal Slug, qui est pas forcément la série de jeux la plus connue, la plus grand public qui soit, mais qui est une série de run and gun absolument fantastique.
C'est
qui a été sortie sur arcade d'abord et ensuite sur Neo Geo. Et au-delà de l'identité visuelle de la série, puisque vous avez, comme à chaque fois, de nombreuses doubles pages qui vont revenir en détail sur les décors, les précision qu'il y avait justement dans les backgrounds, les animations, vous avez des pages entières où on a les frames d'animation de chaque sprite, un à un, ce qui permet de voir que chez SNK c'était quand même des horlogers suisses pixel perfect pour le coup. Il y a des pages absolument somptueuses, vous voyez, il y a toujours ce souci du détail de proposer des visuels très marquants
et en super qualité surtout à chaque fois,
avec du papier de très bonne qualité.
Non mais même les visuels à chaque fois ils sont zoomés de manière à ce que tu vois le pixel, mais que ce soit pas, ça jure pas quoi. À chaque fois c'est juste.
Mais parce que le travail en amont était fantastique.
Parce qu'en fait c'est juste de l'art à chaque fois. À chaque fois tous ces trucs là qui mettent en avant c'est.
Tu connais le 9e art ou pas ?
Il y a la conjonction des deux. Il y a effectivement le matériau d'origine qui est de toute façon somptueux parce que ce qui sortait sur Neo Geo ça tuait complètement la gueule. Et il y a effectivement le travail de mise en page de bitmap books. Alors au-delà des doubles pages pleines de pixels, vous avez aussi des documents d'époque, les visuels qui étaient proposés dans les salles d'arcade, les jaquettes qui changent pour chaque version en fait. Metal Slug 3 qui sort sur Neo Geo, PS2, ça va pas être la même jaquette, on a toute cette documentation là. Et ce qui est très intéressant si vous aimez la série, en plus d'en apprendre énormément sur le développement de tous les épisodes, on a un espèce de petit retour en arrière en fait, et le parcours de Kazuma Kujo qui va devenir un peu le gestionnaire de la série et qui est en interview avec de nombreuses personnes ayant travaillé sur la saga Metal Slug à la fin de l'ouvrage, il raconte un petit peu, en tout cas le Bitmap Books raconte un petit peu l'histoire justement de la naissance de Metal Slug et le parcours de Kazuma Kujo qui en fait se destinait aux jeux vidéo parce que c'était vraiment un gros fan, mais
qui est devenu plus tard Itagaki, c'est ça en fait, quand on voit cette image.
Et il précise bien qu'il ne se déplace jamais sans ses iconiques lunettes de soleil.
C'est l'ancêtre Itagaki.
Il y a un côté Itagaki, mais il a un parcours assez rigolo parce que il rentre chez IREM après avoir découvert Dragon Quest et il se dit que décidément le jeu vidéo c'est fantastique, j'ai envie de travailler là-dedans. Il se fait recruter donc chez IREM. Où il veut faire des jeux grand public pour toucher justement un maximum de monde, on lui dit non, tu vas faire du shoot 'em up parce que t'es nul et qu'on a besoin d'un type nul pour tester notre nouveau shoot. Donc c'était évidemment la saga R-Type, c'était R-Type 2 sur lequel il a commencé à travailler. Et du coup, bah, il se retrouve à découvrir le shoot 'em up, un genre quand même un peu plus niche que ce qu'il rêvait de faire. Et il découvre avec tout ça la culture arcade, le fait de donner aux joueurs quelque chose en échange d'un crédit, d'en donner vraiment pour son argent. Et du coup, il va complètement basculer là-dedans et il raconte comment, après justement le moment où IREM va un petit peu moins bien au milieu des années 90, et bah, toute une partie de son équipe va passer chez SNK, va se faire recruter et commencer à travailler sur deux jeux qui sont pas forcément les plus connus, qui sont tout au début du bouquin, qui sont In the Hunt, qui est sorti en 93, qui est un shoot 2D horizontal.
Dans la chasse.
Mais qui va permettre de structurer un petit peu, on retrouve énormément de ce qui va faire la base après de Metal Slug en termes d'identité visuelle, beaucoup de mechas de la jungle, et derrière il y a Geostorm. Voilà, c'est exactement ce que Poufy vous montre juste avant, c'est les jeux pré-Metal Slug entre 93 et 94, et c'est un travail de documentation qui est hyper intéressant parce que quand on feuillette le bouquin, quand on voit les backgrounds et la manière dont fonctionnent ces deux jeux, on comprend effectivement d'où ils sont partis pour accoucher de Metal Slug. Et on apprend d'ailleurs dans le bouquin que Metal Slug, c'est évidemment le nom du tank que vous pouvez piloter, mais qu'au départ justement c'était le personnage principal, on devait piloter ce tank de manière permanente, ça devait pas être un véhicule qu'on allait pouvoir trouver comme ça de temps à autre. Bah là justement, voilà,
il était master, okay.
on voit des backgrounds justement des premiers jeux de la team Kujo. Et bref, voilà, ça retrace vraiment toute l'histoire de la saga avant qu'elle ne commence. C'est super intéressant, on apprend énormément de choses. On a tous les jeux qui sont sortis après, donc les 7 épisodes numérotés à jour évidemment pour l'instant, parce qu'on n'a pas eu de Metal Slug 8, mais aussi les épisodes portables, First and Second Mission, Metal Slug Advance. Alors évidemment c'est moins percutant sur le plan visuel, mais on a vraiment quelque chose de très exhaustif avec une chronologie de la série et beaucoup d'interviews à la fin qui sont riches d'anecdotes justement sur le développement. Kujo raconte que quand il travaillait sur le premier Metal Slug, ils ont tellement tout donné que dans les dernières semaines de développement, partout où il allait, il voyait des gens endormis sur leur bureau, dans la cuisine. Des fois, l'ascenseur s'ouvrait, il y avait un type qui dormait debout, s'était endormi pendant qu'il prenait l'ascenseur. Bref, voilà, c'est toute une époque du jeu crunch. D'arcade, toute une époque de crunch aussi. Alors, il en parle avec détachement parce que ça date évidemment, mais on sent au travers de ce qu'il raconte que c'était quand même
qu'ils en ont bavé, ouais.
Très 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 difficile. Mais pour quel résultat? Parce que ça permet de reparler de la série, je pense, la plus iconique à mes yeux du genre Ron and John,
qui est... D'ailleurs, il y a quand même une version 150, non?
Il y a 7 épisodes numérotés, sachant que
qu'il y en a tellement plus.
Il y a aussi le 2 qui a été dédoublé, parce que Metal Slug 2, quand il est sorti relativement buggé. Ils ont sorti une version XX qui était un peu le patch derrière. Mais ce qui est pratique, c'est que si vous voulez découvrir la série à travers ce bouquin ou à travers les jeux en eux-mêmes, il y a une anthologie qui est sortie.
Justement, c'est ce que j'allais dire.
Il y a une bonne dizaine d'années sur Wii et.
Ah, je pensais que c'était plus récent. Moi.
PS2. Non, je l'ai sur Wii. D'accord. Et elle était sortie, je crois, dans les premières années, donc d'accord. Ça date de 2007.
Je pensais qu'ils avaient ressorti ça il n'y a pas très très longtemps.
Qui mais... réunit Metal Slug à Metal Slug 6, sachant que les trois premiers forment quand même une trilogie absolument fantastique, qui se complète et qui va toujours plus loin dans le délire. Et voilà, ça permet, ce bouquin permet de revenir en détail sur ces différents épisodes, sur l'identité visuelle et le souci du détail qu'il y avait dans la composition des décors, les sprites des personnages. C'est fantastique, c'est passionnant, c'est une somme d'informations monstrueuse.
Et c'est hyper bien illustré, ça c'est bien quand même.
Et c'est un
quand
gros morceau.
Quand on parle de jeux vidéo.
Et c'est pas si cher que ça à chaque fois pour le boulot et la masse de
trash
qu'il y a aussi à l'intérieur.
Par contre, tu le fais venir d'Angleterre hein, ce bouquin. Hein.
Oui, alors c'est ce que j'allais dire. Une fois de plus, c'est toujours la même chose avec Bitmap Books, c'est que le livre est uniquement proposé en anglais. Après, il y a une telle part qui est laissée justement au visuel. Vous allez louper toutes les interviews et toutes les anecdotes, mais vous avez quand même un espèce de portfolio à se rouler par terre de pixel art. Et effectivement, tout ça pour la modique somme de £29.99, ce qui, au vu du résultat, n'est pas franchement grand-chose.
Même le format, comme ça, en général, rien que la couverture, quand même.
C'est un livre que
ça coûte plus cher que ça d'habitude.
C'est un livre que tu conserves. Sans problème,
c'est balèze, c'est une couverture rigide, c'est un dos carré, bref, c'est toujours du très bon boulot, un papier avec un grammage assez balèze, de très bonne qualité d'impression. Aïe. C'est du tout bon, voilà.
Parfait.
Vous pouvez une fois de plus foncer. Ça vient juste de sortir donc chez Bitmap Books et ça s'appelle Metaslug The Ultimate History.
Merci beaucoup Thomas pour ce hors-jeu, n'est-ce pas Plume?
Bah oui.
T'as pas un train à prendre là?
Non.
Presque, d'accord.
Okay. Bientôt, ça arrive.
Bien voilà qui conclut ce podcast, chers amis, le numéro 512. Nous, on va retourner à nos.
À notre vie de merde, voilà, dis-le, hein. simplement.
Non, on va créer nos.
Parce qu'en fait, on préfère être en podcast, on vit tellement bien dans le podcast, on fout rien pendant que ceux qui restent là-bas, ceux qui écrivent. Voilà, ceux qui écrivent, eux, ils taffent et nous, on fout rien.
Ils taffent comme
en fait.
Des porcs.
Voilà, donc on pourrait rester là pendant des heures.
On va devoir te rattraper, nous, bien sûr, comme d'habitude.
Exactement.
On est encore là à minuit, je pense.
Demain, oui.
Demain.
Ouais. Non, pas lui, c'est jeudi. Qui s'en va.
Ouais, mais lui, on s'en fout en fait.
Oh, bah, à minuit, je serai dans les rues de Londres, moi. Donc,
c'est vrai.
Ouais.
En train de boire des pintes au pub.
Exactement,
du coin.
Exactement, en train de me battre dans un bar.
un mec qui va te péter tes lunettes. Ouais. Tu vas ramper, tu vas te retrouver au commissariat.
Et après, il ira faire la sortie des boîtes pour choper des meufs bourrées en mini-jupe.
Et exactement. Bah, ouais.
La belle vie.
Et ouais, c'est ça l'Angleterre.
C'est ça, Londres. C'est ça London.
Et ouais.
Parfait. Bah écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce podcast. On se retrouve nous la semaine prochaine évidemment pour une nouvelle émission. Et puis d'ici là, qu'est-ce qu'on se dit?
Salut.
Il se sera passé plein de choses sur le site avec le XO19 notamment et puis plein d'autres choses encore.
Les gros tests
à venir.
Qui arrivent.
Voilà. Et puis un certain Stadia dont on va vous parler très bientôt aussi. Voilà. Et puis voilà, donc c'est parfait. Ceci conclut cela et on vous dit donc à la semaine prochaine. Et d'ici là, jouez bien, portez-vous bien et à très bientôt.
Et
ciao.
Gros bisous.